C'est l'équipe du soir, bonsoir. À la une ce soir, Griezmann forfait, PSG qui fait un carton et Antoine Comboiré, un incroyable comeback du côté de Nantes. Présentation de nos invités. Le président ce soir n'est pas tellement à déranger, c'est le président Ravi qui reçoit son courrier. Bonsoir, président.
Oui, je reçois mon courrier, oui, mon voilà, truc. Ouais. Bon, donc pendant l'émission, je vais ouvrir mon courrier, machin. Bon. J'ai une cravate, c'est normal, on va toujours expliquer à la télé, on porte une cravate. Mais ça, c'est une cravate, un mois de salaire, tu peux pas, mais c'est pas grave. Truc. Et. Ta 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 ta. Ça fait mal.
Ça?
On avait sensiblement le même niveau, mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails.
Ouais, d'accord, quand même, le roi Pelé quand même. Président Ravi, je vous présente votre ville.
Non, le peuple, ah, le peuple.
C'est parti, Hugo Guillemet, notre Alexis Sanchez. Bonsoir Hugo.
Bonsoir. Bonsoir,
ça
président.
Ça va Hugo?
Ouais. J'ai pas vu jouer le.
Non,
président.
Bah, tu n'étais pas né.
Et oui. Il paraît, mais on m'a raconté que c'était quelque chose.
Et oui.
Et ça commence à draguer sévère le président. Le docteur Love n'est pas de ce bois-là. Le proverbe est extra, mais la mauvaise caméra. Bonsoir, docteur.
Avec ou sans péril, on triomphe ou sans gloire.
Oh, pétard, ça c'est.
Et alors PSG n'a pas baillé à Corneille, à la Mousson, mais je pense qu'on va en discuter.
Ah ouais, on va en discuter. C'est le carton du week-end pour le Paris Saint-Germain. 6-2 face à vous. C'est un chanteur, docteur. C'est Patrick Juvet. Bonsoir.
Comment allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver. Président, votre cravate, magnifique.
Il y a de l'orange, hein, comme toi.
Magnifique.
Comme toi, il y a de l'orange. L'orange est important. Là, bien sûr.
Est-ce que la cravate et le costume, c'est deux choses qui sont liées ou pas?
Qu'est-ce que tu racontes, toi?
Regardez, non, mais moi je trouve qu'il y a un raccord entre votre cravate et le costume.
Oui, 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 oui. Il y a avec Hervé, il y a quelque chose.
On s'était téléphoné cet après-midi.
Il y a un truc. Beaucoup plus sobre, c'est notre fouine de l'équipe du soir, Benjamin Quarez. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, vous êtes tout palichon, bonsoir, là. Une chemise en jus, un t-shirt noir. Oui,
palichon, je ne sais pas si c'est le terme, comme un peu de soleil peut-être. Et les crampons du président, effectivement, peuvent donner un peu de peps.
Tu choses du combien?
Du 43, c'est un peu petit, non?
Un poil petit.
Un poil petit? Ah, c'est Cendrillon ce soir, on va
À minuit, on va en faire des petits essayages. Je pense que Cendrillon, c'est peut-être Bernard. Non, il doit chercher du 48, Bernard. Non,
fillette.
Fillette. Ah, fillette alors. Peut-être.
C'est du combien là, vous avez?
45.
44.
44, non. C'est pas trop petit. Et puis je joue pas au foot en plus. Fabien Le Sévillon, bonsoir.
Cendrillon.
Bonsoir.
Vous faites du combien vous?
43 aussi.
C'est l'émission d'info ce soir.
Passez
sous le signe de l'info.
Tiens, à propos d'info, Griezmann est forfait en équipe de France. Antoine Griezmann souffre de la cheville. Pas de Griezou donc contre l'Allemagne samedi à Lyon, ni contre le Chili mardi dans 8 jours à Marseille. Griezmann restait sur 84 matchs d'affilée disputés avec, oui, vous avez raison, Jacouille, avec l'équipe de France. C'est le record absolu. Griezou est-il irremplaçable en bleu? On a trouvé deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle en régie, s'il vous plaît. Merci. Griezou est-il irremplaçable en bleu? Bernard nous dit oui, Hervé nous dit non. Vous voulez commencer? Hervé me fait les gros yeux en me disant non, mais faites commencer Bernard, il est ouais, chez lui, bon, machin et tout ça. Bah, Griezou est-il irremplaçable en bleu? Vous me répondez oui, moi ça me semble extrêmement logique, c'est implacable.
Oui,
on vous écoute.
Bah, je veux dire, une fois qu'on a fini d'enfoncer les portes ouvertes, comme va le faire si brillamment Hervé pour nous, bah, la réponse elle tient dans un chiffre. 84 matchs, pendant 84 matchs, Didier Deschamps a refusé de se passer d'Antoine Griezmann. Faisons-nous ce qui s'était passé il y a deux ans. On avait pensé que Christopher Nkunku, quand il était à Leipzig, pourrait éventuellement préparer la succession de Griezmann. Il avait même été titularisé dans la position de Griezmann lors de certains matchs de Ligue des Nations, notamment en Croatie en soutien de Ben Yedder. Tout ça pour vous dire quoi? Que ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de joueurs qui peuvent le remplacer. Un système, oui. Un homme, non.
Mon cher Hervé, vous avez répondu non. Moi, je vois pas avec quels arguments, mais on vous écoute attentivement. Hein.
Parce que j'ai bien réfléchi à cette question et je me suis dit finalement, poser cette question, c'est finalement attaquer Griezmann. Griezmann, c'est la négation justement de l'individualisme. C'est mettre le sport collectif, les individualités au service du collectif. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Griezmann peut tout à fait être remplacé. Et d'ailleurs, il faut prendre un exemple précis, la finale de la Coupe du Monde, quand il sort à la 71e minute, la France est menée de 2 buts. Et finalement, Mbappé, après, il y a le final qu'on connaît. Donc ça veut dire que ce qu'il faut trouver, c'est collectivement quelque chose qui va fonctionner. Lui, c'est un joueur clé, c'est un top joueur de l'équipe de France, mais pas irremplaçable.
Ok. Bon, Bernard, j'ai l'impression que là, vous êtes dans un fauteuil. Vous
non, pas du tout.
On verra sur les résultats.
On finit sur le même constat, c'est qu'un système pour le remplacer, mais pas un homme.
On n'a pas d'équivalent en France aujourd'hui. Le site équipe, vous votez, soit Bernard, soit Hervé. Président, votre première tournée.
C'est délicat parce que irremplaçable, bon, c'est bien.
À 84 matchs d'affilée aussi.
Non. Ah bah c'est un joueur capital, Antoine Griezmann. Il est clair qu'on n'a pas l'équivalent dans le profil du joueur capable de réaliser ce que fait Griezmann, les box-to-box, le jeu court, le jeu long du pied gauche, le QI football qu'on connaît, une certaine adresse devant le but si besoin, les passes pour Mbappé ou d'autres, une générosité, un altruisme, enfin tout le tralala, si tu mets bout à bout, c'est, je dirais pas le joueur parfait, mais enfin pour l'équipe de France, c'est un joyau. Et on n'a pas l'équivalent. Alors après, de toute manière, il va pas repartir pour vos 84 matchs quand il va revenir, non. Évidemment, non. Malheureusement. Donc, je rejoins, même si ton exemple est plutôt bon, mais l'équipe de France, en finale de Coupe du Monde, s'en sort pas quand même. Et puis, il y a Kolo Muani et là, cette grosse erreur d'Otamendi. Juste après un but, une égalisation de partout, une équipe qui devient comme ça, une autre qui se liquéfie. Ça, c'est complètement irrationnel, quoi. C'est plus, et ça en devient très, très beau du coup. Mais ouais, faut changer de. Enfin, tu seras obligé, Didier Deschamps sera obligé de mettre une sorte de système. Pas changer du tout au tout, mais forcément, des joueurs auront peut-être un rôle un peu plus prépondérant créativement.
Mais même
peut-être
s'il d'autres. Change, pardon s'il change le système, oui. Qui va apporter même en changeant de système,
oui,
qui
oui,
apporte
oui.
La créativité qu'apporte Griezmann. Même ben, si tu joues en 4-4-2,
ça a été la grande
t'as
réussite.
Vu les autres milieux qui sont dans la liste.
Non, mais c'est parce que ça n'existe plus, parce que Griezmann finalement est un 8-10-6, enfin des joueurs comme ça où tu as un créatif. Ouais. Qui est comme en Italie, on les appelle regista, qu'on met très bas, si tu veux, comme un Pirlo ou comme autrefois un Argentin, Redondo ou des choses comme ça, ou des 9,5, mais des 10, ça n'existe plus les 10. Alors c'est pas un 10,
c'est pas ça. Je vais même plus loin. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec Bernard. En fait, il a un logiciel que personne n'a en équipe de France.
Non.
Il a été formé en Espagne et il a pas les défauts des
joueurs français.
Développés, très développés individuellement, collectivement, c'est pas comme en Espagne.
Ouais.
Et en termes de créativité, Hervé, tu peux changer le système autant que tu veux. Déjà que cette équipe de France est souvent en défaut de créativité et lui apporte un petit peu l'étincelle. Alors s'il n'est pas là, alors on sait pas ce que c'est quand il est pas là parce que effectivement il joue tous les matchs.
Mais c'est une bonne nouvelle quand même, Hugo.
Oui, mais non, mais
ah, bah,
je trouve
mais pourquoi c'est une bonne nouvelle
parce que son absence est une bonne nouvelle parce que il vaut mieux à son âge qu'il soit absent maintenant. Plutôt que juste au début de l'Euro ou pendant l'Euro. Ouais, parce que là, ça va forcer Didier Deschamps à essayer de trouver un palliatif à Griezmann. C'est pour ça que j'ai terminé en disant on ne peut pas le changer. Il n'est pas interchangeable avec un autre joueur. Et là-dessus, Didier m'a rejoint. Mais il va falloir qu'il invente autre chose, Didier Deschamps. Mmh. Alors, un autre système de jeu, avec une autre animation.
Par exemple, si tu joues en 4-3-3. Si tu joues en 4-3-3.
Oui, mais je finis juste en 2 secondes. Et que donc, finalement, ces matchs-là là, de préparation, ils servent justement à ça, à trouver un variable ajustable à l'absence de Griezmann.
On va écouter Didier Deschamps aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez-le, Didier Deschamps. Donc le forfait, au moment où il prend la parole en conférence de presse, n'est pas acté, mais c'est dans l'air. Écoutez ce qu'il nous dit.
Avec les qualités d'Antoine dans son registre, on ne pourra pas trouver un joueur qui a ces caractéristiques-là. Mais Antoine, s'il a le record de matchs en continu depuis je sais pas combien de temps, c'est que il a pris beaucoup de place et il était systématiquement là, donc et quand on sait l'influence d'Antoine, oui, donc c'est un remplacement poste pour poste, j'aime pas ce mot-là, impossible, mais bon, c'est dit très 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 difficile à trouver, donc on aménagera un petit peu différemment.
L'idée est là. De toute façon, on n'est pas en train de dire on remplace un joueur par un autre, poste par poste. Non, c'est simplement créer quelque chose de différent. Je disais collectivement, si vous jouez en 4-3-3 par exemple, avec Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, bien sûr qu'il n'y aura pas peut-être la touche technique de Griezmann. Mais ce n'est pas pour ça que votre équipe n'arrivera pas à faire quelque chose d'intéressant.
Et Amri, repositionner votre
équipe,
Dembélé dans un jeu plus créatif que tu vois.
Pourquoi pas ?
Tu as des solutions, je veux dire. Tu as des solutions. Et tu n'auras jamais effectivement l'équivalent de Griezmann en équipe de France. Tu n'en as pas. Tu l'as dit, on n'en a pas des équivalents.
Il y a quelques minutes sur le plateau, Griezmann. Vous l'avez dit, à une formation espagnole. Voilà, il a été formé à la sauce espagnole, à la Real
Sociedad. Il a été refusé par plusieurs centres de formation en France.
Est-ce qu'il y a un trou dans notre raquette à travers, finalement, cet itinéraire d'un joueur, ce profil que Grégory Schneider, un soir, avait appelé l'enlumineur? C'est vrai qu'il enlumine un peu, il donne de la lumière, il donne de la respiration. Est-ce que ça soulève toujours la question un peu éternelle ou qui revient de temps en temps sur la formation à la française? La formation, c'est une formation avec... On sort énormément de joueurs de profondeur, des joueurs physiques, des joueurs rapides, des joueurs qui sont efficaces, que la terre entière nous envie. Mais des joueurs comme ça qui vont justement aller développer un QI foot collectif.
Tu as un joueur comme Benzema, c'est la formation française quand même. Mmh. Ça tombe bien puisqu'on le voit en train de remiser. Mais c'est vrai que d'une manière générale, ça a plutôt manqué au football français puisque on avait Zidane, c'était formation française aussi, qui était un génie, mais enfin dans son genre, et puis un génie tout court. Et après, c'est vrai que la DTN, la formation, sur 98, on a gagné quand même une Coupe du Monde où on a broyé les adversaires physiquement un petit peu, défense de fer, etc. Et là où on était à un moment, les Brésiliens de l'Europe, ben on est devenus... un peu
les Allemands,
des Italiens, des Allemands.
Mais devant les Espagnols qui étaient considérés, pour le coup, quand tu avais Xavi, Nesta, etc., pour un peu les joueurs qui pouvaient être ces passeurs de rêve.
Ah non, mais l'école espagnole, heureusement.
Aujourd'hui, même, il y a Pedri qui arrive, Gavi, etc., mais Pedri, il y a un très grand, très très bon joueur en devenir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore ce type de joueur? Il n'y en a pas non plus des masses. C'est-à-dire que là, on dit la formation française, mais il n'y a pas que la formation française. La formation. Manière globale.
Oui, l'évolution du football fait que c'est aussi quand même de plus en plus physique, peut-être. C'est peut-être pas bon signe. Et les joueurs sont de plus en plus robotisés quand même, dans des schémas de jeu très stricts par rapport à des zones et tout. Et on a du mal à trouver des joueurs, effectivement, comme Griezmann. Je parlais de Zidane autrefois. Modric, Zidane, Ancelotti a dit, parce qu'Ancelotti, il faut savoir qu'il est quand même très... carré sous ses ailes.
Il a évolué. Et c'est marrant ce que vous racontez parce que Hervé nous l'a raconté la semaine dernière.
Je voulais c'est quand même très important. Et moi, je me souviens, Ancelotti, j'avais mangé avec lui à Parme. À l'époque, il était entraîneur de Parme.
Il débutait sa carrière.
Il était très pote avec Zola. Et Zola devenait fou parce qu'il voulait mettre Zola sur un côté. Il lui expliquait après, tu pars en diagonale et tout. Zola, qui était un 10 et qui était le successeur à Naples de Maradona, etc. Et qui était un 10, qui était devenu un 9,5 après formidable à Chelsea. C'est pour ça qu'il a quitté Chelsea.
C'est une variante que vous racontez.
Voilà, une variante. Donc, je me disais, putain, c'est Ancelotti, il est truc pâté. Et il est resté comme ça jusqu'à ce qu'il entraîne Zidane. Parce qu'il était anti-numéro 10 ou des choses comme ça, et des joueurs sur qui tu mises beaucoup de choses, quoi. Il préférait en avoir plusieurs, etc. et tout. Et il a, en étant entraîneur de la Juve et en ayant Zidane, eh ben, il a eu l'intelligence, l'humilité, appelle ça comme tu veux, de revoir sa réflexion footballistique de base, quoi, tu vois, italienne et tout. Et il a donné les clés à Zidane, ce qu'il ne faisait pas.
Dans cet intervalle, à Parme, Baggio doit aller là-bas. Et quasiment tout est signé. Et il dit non.
Et bien sûr que non.
Et c'est lui qui freine tout. Il dit, je pourrais jamais
l'utiliser. Il ne veut pas Baggio.
Et c'est après avoir eu Zidane qu'il a dit...
Mais Zidane était là quand il est arrivé. Il n'a pas fait venir. Peut-être qu'il n'aurait pas fait venir. Et là, il a compris.
Et il a dit, une fois que j'ai eu Zidane, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'étais dans la logique.
J'ai compris que j'ai fait une erreur. J'aurais accepté Baggio.
Les joueurs ne sont pas que des pions et laissent faire.
Tanguy, l'équipe de France sans Griezmann, faut remonter à France-Angleterre le 13 juin 2017 pour voir une équipe de France sans Griezmann qui était présent mais qui était sur le banc. La France avait gagné 3-2. Tanguy, quand Grisou est sur le banc, là, parce que ça fait 84 matchs qu'il enchaîne, ça donne quoi au niveau des résultats de l'équipe de France?
Il y a notre collègue Amine qui s'est penché sur ce cas-là. Et quand il n'est pas là au coup d'envoi, eh bien, les Bleus ont plutôt du mal. Sur les 5 derniers matchs où il n'a pas démarré, l'équipe de France ne s'est imposée qu'à une seule reprise. C'était contre l'Ukraine en 2020. Une victoire 7-1. Mais sinon, c'est 3 défaites contre la Tunisie et la Croatie en 2022 et face à la Finlande en 2020. Et un petit match nul en Croatie en 2022.
Voilà. Et celui qui a été rappelé, c'est Guendouzi, Matteo. Alors évidemment, c'est pas le...
Non, c'est pas être son remplaçant.
Non, c'est pas le même joueur. Il fait une bonne saison, Matteo, à la Lazio. Il est devenu titulaire. Et voilà, on n'a pas de joueurs comme ça. Voilà. J'ai regardé, tiens, s'il y avait des joueurs qui émergeaient avec un problème. Je vous sers le Magnès Akliouche de Monaco, mais c'est encore un jeune joueur. Oui. Hein. Il fréquente les espoirs. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sortent, des joueurs de profondeur, Mais peu de joueurs, on va dire, de rapport, de passe.
En espoir, sur la génération 2000, Enzo Lefebvre, il a une qualité
oui, c'est vrai, vous avez
technique
raison.
Qui le rapproche des joueurs un petit peu espagnols, mais il joue un peu plus bas sur le terrain.
Et puis c'est...
Il en est plus bas. Autrefois, il a commencé plus haut.
Mais c'est d'un niveau moindre, quand même.
C'est d'un niveau moindre.
Ah oui, d'accord.
On n'a pas le crack générationnel comme Griezmann. Ça, on l'a pas.
Non. 64, Bernard. Ouais. Oh, pas okay.
Il est presque déçu par son score.
PSG, quel carton hier. Paris a fait un festival offensif à Montpellier. 6 buts marqués, les enchaînements à foison. Une impression que ce PSG-là est en train peut-être de passer un cap. On va en parler. On va faire des tours du côté de la zone mixte, la zone d'interview. Vitinha a apprécié et s'est régalé. Écoutez-le.
On a fait un grand match. C'est quasiment le match parfait parce qu'on a pris 2 buts. Dommage. Mais il faut souligner la réaction qu'on avait parce que c'est pas facile d'avoir ce type de réaction surtout à l'extérieur et on a fait un grand match et c'est une bonne victoire avant la trêve.
Il parle bien français.
Ah, bluffé,
bien,
ben,
Paris a-t-il passé un cap hier soir à Montpellier? Deuxième débat, deuxième duel, on y va. Envoyez le jingle en régie s'il vous plaît. Il dit oui, c'est Hugo Villemay. Il dit non, c'est Benjamin Courage. Du Parisien.
Tout à fait, ouais. T'as fait jusqu'à la nouvelle, oui.
Voilà.
Bah, peut-être du pouvoir, c'est la fin, quoi. C'est peut-être sa dernière.
Paris a-t-il passé un cap hier soir à Montpellier? Oui, Hugo, vous avez la main.
Oui, ils ont passé un cap parce que au-delà d'un trou d'air et des progrès qu'ils ont à faire sur le plan défensif, moi, je vois des progrès à la fois collectifs et individuels. Et le travail d'un coach, c'est apprendre à ses joueurs à jouer dans différents systèmes, à maîtriser différents postes. Et c'est tout à fait ce qu'arrive à faire Luis Enrique. À impliquer aussi tout le groupe. Je trouve son management et son turnover très bon. Et à faire progresser individuellement des joueurs qui ensuite portent le collectif. Je pense notamment à Ruiz, à Vitinha. Contre Montpellier, c'était très flagrant. Donc pour moi, le PSG passe un cap.
Non, pas hier soir en tout cas.
Ouais, voilà, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'ils ont passé un cap hier soir? Moi, j'ai pas attendu le match hier soir pour voir Vitinha être dans le ton. J'ai pas attendu le match hier soir pour voir Kylian Mbappé être un joueur en homme. J'ai pas attendu hier soir pour la confirmation que Enrique manageait très bien son groupe et que son turnover était efficace. Au contraire, c'est là, pour moi, dans la continuité de ce qu'il met en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il nous avait annoncé que l'équipe serait plus forte en février. Finalement, on peut dire qu'en mars, elle est plus forte qu'elle l'était effectivement au mois de novembre. Donc aujourd'hui, je suis dans une certaine continuité, que le PSG progresse, est en train de passer un cap. Et ce match à la Sociedad, il y a quelques jours, après passer le cap au PSG, et on continue ainsi.
Ok, c'est pas hier soir, c'est un mouvement qui est apparu depuis le début du mois.
Du coup, il est quand même d'accord avec moi.
Vous êtes d'accord.
C'est au niveau du timing.
C'est fin.
Il n'a pas attendu hier.
Le site l'équipe. Cite l'équipe, soit Hugo, soit Benjamin. Président. C'est quoi votre constat là? En fait, c'est...
C'est un match très, très curieux à analyser quand même. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de le commenter et d'être hyper concentré du coup, ce qui était le cas.
Ouais.
Je trouve qu'ils se sont fait ouvrir en première mi-temps. Si Casri, qui a pourtant un bon QI foot et qui est quand même quelqu'un d'adroit ou truc, au lieu de frapper à un moment ouvre, là où il y en a deux, ne rate pas sa reprise ou Danilo sauve, mais elle n'était même pas dedans. Si Nordin est un peu plus fin, si tu veux, il y a eu de telles défaillances individuelles, que ce soit Hernandez, que ce soit Danilo, mais après, te faire ouvrir comme ça, et c'est pas la première fois que je vois le PSG se faire ouvrir comme ça, et ce n'est que Montpellier. Ça pose question quand même, je trouve. À l'arrivée, Montpellier doit mener, je veux dire. Ils ont tiré quoi? Deux fois au but, Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait en première mi-temps? Ils ont joué sur un rythme de sénateur, d'accord? Et ils ont marqué 2 buts qui sont largement évitables, où Montpellier a une part de responsabilité sur Vitinha, tu vois, c'est défendu. Tu as un joueur qui est sur lui, c'est il y en a 2 derrière, mais il faut pas qu'il soit à 3 mètres, il faut qu'il soit à 1 mètre pour intervenir une fois qu'il a passé le premier, si tu veux. Et le gardien, un peu cher, il a joué 40 matchs depuis 2017, ça fait même pas 6 matchs par an, tu peux supposer que c'était un peu...
Hein, bah, Dimitri Berthaud.
Oui, il est depuis 2017 et on est en 2024, il a joué 40 matchs. Mais... sur les buts, il y a un certain nombre de buts. Autant les 3 derniers, je discute pas, mais certains. Mais Vitinha, je pense, si c'est Donnarumma, il va la chercher.
Ah ouais.
Même elle est au ras du poteau par rapport à la vitesse ou quoi. Mais Donnarumma, il te sauve de ces choses.
Il est beau, quand même.
Mais tu te rends pas compte.
Oui, bien sûr.
Oui.
Didier.
Oui.
Ce qui s'est passé pour le PSG, ils se font ouvrir, je suis d'accord avec toi.
Oui.
Ah ben oui. Avant de progresser.
Oui.
Qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient pris des rouges, ils auraient perdu ce match.
Ah bon?
Ben, la réaction.
Je sais pas, mais j'ai rarement vu le PSG quand même, même peut-être celui de Galtier était déséquilibré. Alors, il y a des choses. Moi, je trouve que son turnover, il garde tout le monde concentré, il change. Et puis même, il garde les trois mêmes attaquants, mais il les change de poste, enfin, ou truc. Bon, très, très bien. Mais est-ce qu'à un moment, c'est pas bien de dégager un petit... Tu vois, Zaïre Emery, quand il rentre, est-ce qu'on va retrouver le Zaïre Emery des premiers mois? Je sais pas. Alors, tu as l'impression qu'il a cinq schémas de jeu, ou je sais pas combien. Tu vois, il termine même avec deux attaquants en 4-4-2. Après, Hakimi, il est plus haut, après, il y a des trucs. Et c'est bien. C'est bien quelque part. Mais à un moment,
il y a quand même une...
je trouve que le 6-2 est trompeur, quand même, okay. si tu veux, tu vois. Et je te dis encore, ce n'est qu'au Montpellier. Mais après, bon, bravo. Très bon
Bernard, reprends là, parce que Bernard, je vous sens, on va dire, assez partagé aussi sur ce, voilà, non, sur l'idée de passer un cap.
Je suis plutôt d'avis de Benjamin, mais pas du tout pour les mêmes arguments. Parce que passer un cap, c'est quand tu mènes 2-0 à l'extérieur face à une équipe qui est relégable ou quasiment relégable, tu te fais pas rejoindre au score. Parce que ce schéma-là de match, on l'avait vu, me semble-t-il, devant Reims. Donc je vois pas où ils ont progressé.
Mais ils gagnent pas à la fin.
Je vois pas où ils ont progressé dans la gestion. Je trouve que face à une équipe de Montpellier, ils ont concédé énormément d'occasions, énormément de tirs, énormément. Voilà, ils auraient pu même en prendre 3 ou 4 dans ce match-là si l'arbitre avait décidé autrement.
Ouais.
Donc de dire qu'ils ont franchi un cap, on a tous. En ligne de mire, la Ligue des Champions.
Dans 24 jours, c'est Paris-Barça.
Non, moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Je rejoins plutôt Didier dans l'analyse. Parce qu'il y a trop de choses qui fonctionnent pas. Oui. Je veux dire, si on avait su, on avait vu, par exemple, il y a pas si longtemps, un match face à Reims, une équipe qui gère, qui plie le match, qui tient le score, qui a pris l'alourdie et qui gagne 4-5-0. Je te dirais, là oui, ils se font plus peur, ils font plus d'erreurs défensives, ils font plus ci, ils font plus ça. C'est pas ce qu'on a vu. Alors c'est vrai que le score est spectaculaire. Moi, la seule évolution que j'ai vue dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est leur capacité à frapper de loin et à marquer en dehors de la surface. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis.
Il y en a trois. Il y a trois buts en dehors de la surface.
Depuis l'Eternam, j'ai pas la stat en tête.
Ils ont marqué 13 ou 14 buts.
Non, mais dans un même match, je te parle d'arriver à marquer trois fois dans un même match de l'extérieur de la surface. Alors là-dessus, ça ajoute une palette offensive à leur jeu. Pour le reste...
Mais c'est la palette défensive, moi, qui m'inquiète. Est-ce que vous jouez Montpellier, Lorient, Nantes, Brest, il se passe toujours un peu les mêmes choses. Je trouve qu'en transition rapide, ils sont toujours en difficulté. Mmh. Défensivement, c'est très moyen. Donnarumma a fait une saison exceptionnelle. Parce qu'il y a combien de matchs où il est sauf. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais. Absolument incroyable.
Mais
alors savoir, je te rejoins sur l'idée, savoir qu'Mbappé est capable de faire du Mbappé, il n'y a pas de souci. Hein. On est au courant, la frappe, etc. Vitinha aussi, parce que Vitinha, il n'est pas bon que depuis la semaine dernière. Quand il est arrivé, il avait été tout de suite bon. Après, il a eu un petit creux.
On va aller vous revoir après, Benjamin, parce que j'ai l'impression, la conversation d'Evie, on commence à se faire peur. L'arbitrage de Didier, c'est un match qui est, on va dire, difficile à débriefer. C'est difficile finalement à faire un bilan positif et négatif.
Il est trompeur, il est quand même positif. Mais beaucoup moins par rapport à ce que j'entends. Et quelqu'un qui n'aurait pas vu le match, qui voit 6-2, il te dit ça a été une démonstration. Ouais. Tu vois les buts, tu vois qu'ils vont les uns derrière les autres. C'est une machine. Et surtout, en plus, dans l'intensité et dans le rythme, ils ont levé le curseur dès la reprise quand même, parce qu'ils ont dû être secoués, parce que la première mi-temps a été cataclysmique. D'accord ? Mais je trouve que le rythme dans la première mi-temps, tu vois, était mollasse, quoi, si tu veux.
Enfin, moi, je jouais comme...
Ah bon, tu trouvais que c'était intense, toi?
Moi, j'ai vu des quand même beaucoup de fulgurances, même en première mi-temps, des sorties de balles, des trucs où ils ont des occasions quand même, Paris, non?
Franchement, tu as vu beaucoup, j'ai vu tellement celle de Montpellier, enfin ça choque tellement que... Ah bon,
j'ai pas eu le gardien de jouer le contre sur le but de Mbappé.
Là, on parle de la première mi-temps, la première période, déjà, il y avait des choses qui étaient...
Il la donne bien, tu sais bien.
A fait aussi une très bonne première période.
En étant extrêmement diminué.
Mais défensivement, catastrophique. Elle offre les buts au PSG.
Jordan, la première période, elle est incroyable.
Oui, mais je veux dire, Benjamin Lecomte, il se blesse la veille. Il s'y agace, il a le latéral gauche... avant le match. Jérôme Chotard, qui est quand même la pierre angulaire au niveau de la récupération du jeu.
Joris.
Il est blessé. Je veux dire, Montpellier, c'est pas une équipe qui a un énorme effectif, c'est une très bonne équipe. Oui. 11, 12, 13 joueurs. Mais voilà, il en manquait quand même 3 joueurs clés, quoi.
Et tu te retrouves avec des résultats à l'allemande ou à l'espagnole d'une certaine époque. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence de niveau entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Tu te retrouves avec, comme en Allemagne, le Bayern gagnait 6-1, 6-2, 6-3.
C'est parce que j'ai pas eu l'impression qu'ils soient fait tant peur que ça.
Non, sur la première période,
ils accélèrent. Non, mais c'est les termes que tu emploies, tu dis, ils sont fait peur. Oui, ils ont pas eu la maîtrise.
C'est parce que
ils ont pas eu la maîtrise.
Non, je parle pas de crainte et de peur. Je dis que les progrès de voir qu'ils ont franchi un cap dans la gestion, quand tu mènes 2-0 à l'extérieur, tu fermes la baraque, le match est plié, tu as les joueurs pour les contrer, c'est terminé. Là, tu te retrouves à 2-2. S'il y a des décisions d'arbitrage qui se sont différentes, tu peux te retrouver et tu peux finir un match et le gagner avec marquant 6 buts, mais tu peux en prendre 3 ou 4 aussi.
Pardon, Benjamin, de vous remettre, je peux vous remettre dans l'inconfort parce que c'est quand même votre club, vous le suivez, vous
êtes pour
le
club. Il n'a plus de boulot.
C'est pas ça. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur le plateau, là, on commence, on va dire, un peu à assombrir le tableau.
Non,
on commence un peu à l'assombrir. C'est inquiet. Il y a toujours des. Paris a-t-il passé un cap hier soir, là vous nous dites, je suis pas compétent, je peux pas vous dire oui.
La preuve qu'on n'est pas tous d'accord sur le match d'hier soir. Moi, je vous ai rejoint parce que j'ai dit qu'on pouvait pas pour dire que c'était après le match d'hier soir qu'ils avaient passé un cap. Mais en revanche, dans une certaine continuité sur les matchs qui ont suivi, notamment la Sociedad au match retour, oui, c'est qu'il y a un cap qui est passé. Il y a le match contre Reims qui pour moi est à zapper, mais pour le reste, on a quand même des résultats qui sont plus ou moins intéressants quand même en Ligue 1. Ils ont 12 points d'avance. Il fait tourner son effectif. Les joueurs qui retrouvent une place titulaire répondent présents. Je pense à Colomoni hier soir, qui aurait pu plonger la tête dans le seau avec, en n'ayant pas été titulaire depuis un mois, finalement il répond présent. C'est pas le seul parce qu'il y en a eu d'autres avant lui qui ont été dans la même situation et qui ont répondu
présent. Non, mais toi tu dis qu'ils ont une gestion. On voit bien qu'ils ont progressé depuis le match retour dans l'arrière sociale.
Non, je trouve que ce match retour est venu valider, ou en tout cas faire passer le step que le PSG n'avait pas passé depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on les attendait sur un rendez-vous européen, d'accord, d'importance, ouais, un rendez-vous qui n'avait pas passé d'ailleurs depuis 3 ans, ce qui est quand même pas rien.
Pas les mêmes équipes, c'est toujours pareil, c'est pas la même adversité.
Tu peux pas empêcher l'aspect mental d'avoir je veux bien qu'on me dise que ce soit l'adversaire de la Sociedad, mais à un moment donné, il faut passer cette étape-là. Cette étape-là, elle a été passée. Dans le vestiaire, on nous a fait passer le message que ça avait été un point très positif pour le collectif. Et je constate que les matchs suivants, le PSG a souvent eu du mal après les matchs de Champions League. Force est de constater que par la suite, il y a eu 2 victoires et 1 nul.
Benjamin.
Avec des résultats plus ou moins convaincants, puisque quand même le match précédent, c'était le match contre Nice en Coupe de France. On est tous là à analyser ce match en disant la première demi-heure, c'est une des meilleures demi-heures du PSG cette saison. Dans la globalité de ce match, à l'exception de 10-15 minutes, on est quand même sur un match déjà très abouti 3 ou 4 jours plus tôt. Donc moi, pour moi, on est dans une continuité.
Bon, c'est une machine de guerre, il n'y a pas de problème.
En tout cas, c'est quand même plutôt convaincant.
Non, mais un peu quand même, quoi.
T'as 12 points, le championnat est déjà gagné. Donc t'as le laboratoire en championnat.
Tu sais que le deuxième, c'est-à-dire Brest, bravo pour la saison. Ils arrivent même pas à 2 points de moyenne sur 3. Le championnat est incroyablement faible, quoi. Il faut que tu sois. Donc quand Bernard te disait, alors on va se mettre les supporters du PSG à dos, peu cher, parce que ils ont l'impression que hier c'était miraculeux, fantastique. Ils ont jamais vu ça. Et tant mieux s'ils le croient. Moi, je veux bien, mais parce que je lis des trucs. Franchement, le championnat est terriblement faible. Oui. Et donc qu'ils aient 12 points d'avance, enfin ou 14 ou 13, enfin je sais pas, de toute manière,
c'est le gros échec de Monaco. Parce que Monaco est de
Non, mais Monaco n'est pas là. Marseille
n'est pas là. Oui, mais Monaco,
sans Coupe d'Europe,
est obligé de changer son cours d'effectif.
Non, bien sûr, Monaco rate complètement sa saison et truc. Ça, c'est pas la faute du PSG. Mais
on peut pas les juger.
C'est dommage.
À l'aune de ce que tu dis, on peut pas les juger finalement. Parce qu'en fait, il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs 5-0 sans concéder de.
Ben non, hier, on t'a donné des faits par rapport au match d'hier.
Ils sont égalisés sur un pénalty à la 45e plus 2. Derrière, il y a la mi-temps. Ils reviennent, ils massacrent Montpellier. Pendant 10 minutes, il y a 4-2. En fait, je vois pas à quel moment ils ont douté.
Des équipes. Ben écoute. Mais moi, je trouve que par rapport à la première mi-temps.
Oui, ils se sont fait secouer parce que Hernandez était
Il y a
Hernandez.
Mais il n'y a pas que Hernandez et Danilo. Parce que, alors Hernandez, il passe complètement à côté. Même seul, il glisse, tu vois, et c'est Nordin en face. À moins que ce soit Jairzinho, tu vois.
Mais c'est un bon joueur.
Afro ou truc. Mais c'est un bon joueur, Nordin. Pas de problème. C'est un bon joueur, j'avais vu à Saint-Etienne, tout ça et tout. Mais enfin, ça reste Nordin quand même. On est d'accord. Bon. Et Hernandez,
mais c'est un bon joueur.
Le niveau, mais c'est un bon joueur. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste d'ordin quand même.
Oui, mais c'est un bon joueur.
Oui, c'est un bon joueur. Ah. D'accord, mais ça reste d'ordin quand même.
C'est vous qui voyez.
Il y en a qui ont essayé.
Non, heureusement que je fais la semaine chevalier parce que les gens, les téléspectateurs qui arrivent vont dire merde, ma télé bug.
Non, mais président, la vérité, c'est vrai aussi que les gens qui suivent le PSG, qui sont fans, et puis même qui regardent les résultats du PSG, peuvent se dire on leur demande quoi? Parce que eux, pour le coup, ils font le boulot. Simplement, voilà. Nous, quand on voit ces matchs-là, on se dit que le premier tour de Ligue des Champions,
le premier tour de Ligue des Champions,
ils font deuxième de leur groupe, d'accord. Oui. Ils tombent sur la Real Sociedad, qui est quand même un adversaire. Alors, s'ils ne sont pas dans leur corde, je ne sais pas quoi dire. Ils ne sont pas brillantissimes. Et donc, on attend peut-être un peu plus, évidemment. Alors, ça va être top de les voir contre Barcelone.
Voilà, ce qu'on veut, c'est que le PSG gagne la Ligue des Champions.
Mais évidemment,
en une demi-heure, on passe forcément au quart de finale des Champions.
Bien évidemment.
Notre réflexion, notre débat, il s'inscrit là-dedans, dans cette optique-là.
Et là, il y a un tirage qui te laisse rêver. Tu seras peut-être éliminé par Barcelone. On verra bien. Mais tu te dis, bon, Barcelone, 50-50 peut-être. Ils ont des failles en défense. On a des gros attaquants. Atlético Madrid va savoir. Ils en ont pris trois et trucs. Grosse machine de guerre, mais machin. Manchester City ou Real sur un match. Alors ça fait beaucoup de choses, mais on y croit. Enfin, je veux dire.
Et c'est vrai que c'est dur pour un entraîneur comme Luis Enrique et les entraîneurs précédents. Il n'y a pas que lui. Hein, tous les entraîneurs qui sont passés sur le banc du PSG parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont toujours critiqués. Parce qu'ils disent, ce qu'on fait, c'est jamais bien. Ce que disait un peu Galtier.
Non, mais là, ils n'ont pas lancé un point derrière.
Mais regarde, tu vois, pour les gens, ils ont passé un cap.
Donc
c'est merveilleux.
Ils ont 84 points.
Hugo, 76.
Le carton du PSG, le carton du FC Barcelone, c'est hier contre l'Atlético Madrid, on est à 24 jours du match aller contre le Paris Saint-Germain. Tanguy, qu'avez-vous à nous apprendre un peu en coulisses là, sur cette rencontre et ce carton?
Oui, ce Barça qui va mieux hein, depuis l'annonce de Xavi hein, qui annonçait son départ en fin de saison, c'était fin janvier. Depuis, le club est invaincu hein, depuis 10 matchs. Lui est toujours dans la même optique, hein, c'est ce qu'il a annoncé hier soir. Mais Deco, le directeur sportif du club, lui laisse toujours la porte ouverte pour de nouvelles discussions et donc peut-être prolongées. C'est ce qu'il a expliqué chez nos confrères de DAZN. Il a déjà expliqué la situation. Si quelque chose change, on en reparlera. Xavi est sous contrat jusqu'en 2025 avec une année en option. Il pourrait donc rester l'été prochain.
Voilà. Ils vont peut-être perdre maintenant.
Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, l'histoire d'un incroyable comme celui d'Antoine Comboiré du côté du FC Nantes Atlantique. A tout de suite.
Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps.
Ouais. On a fait la guerre. Qui a gagné, qui a perdu, je ne sais pas, je ne sais plus. Oh. On se retrouve les mains nues, mais après la guerre. C'est que ce truc. Il nous reste à faire la paix.
Bravo, bravo,
je reviens.
Bravo. Magnifique.
Tous les tubes de Chantal Goya.
Antoine Comboiré remplace Jocelyn Gourvennec à Nantes. Si Valdemar Quitta a activé, donc Antoine Comboiré, un an après l'avoir viré, c'était dû en partie à l'entretien que nous a accordé donc Antoine Comboiré. C'est Régis Dupont, le journaliste accoucheur, mardi dans l'équipe. Antoine Comboiré parle de Nantes. Nantes, c'est ma meilleure expérience d'entraîneur. J'ai vécu en termes de qualité de travail, d'échange avec les joueurs, une symbiose comme tu en as rarement. Et le public, je me sentais poussé par son énergie. Des regrets, non. De la frustration, oui, parce que j'aime combattre. À la limite, c'est là que je me retrouve quand c'est dur. C'est ce que nous disait Antoine Comboiré.
Je te coupe 3 secondes.
Mais non, j'ai fini la citation.
Il est repris parce que le président Quitta voit cette interview. Donc, s'il n'y a pas cette interview,
ça lui met un peu la puce à l'oreille. Ouais, ouais.
Il la lit.
Ouais, il la lit. Ouais, ouais.
Ah. C'est important.
Comboiré de retour à Nantes. Est-ce enfin une bonne décision de Valdemar Quitta? Cette question, quatre
personnes. Ben, j'étais sûr.
4 chroniqueurs pas d'accord. On y va. Valdemar Quitta, enfin une bonne décision. Ça peut toujours faire débat. Bernard et Hugo, vous me dites non. Pas pour d'ailleurs les mêmes raisons, mais qui commence chez Bernard, Hugo?
Ouais, je commence.
Allez. Ok, Hugo, vous prendrez la main. Oui, pour Hervé et Benjamin, qui commence?
Oui, comme tu veux.
Peu importe, allez,
vas-y, si tu veux.
Est-ce enfin une bonne décision de Valdemar Quitta? Oui, Benjamin, à vous de jouer.
Oui, c'est plutôt une bonne décision, dans le sens où son prédécesseur cartonnait pas du tout. Il était sur 7 défaites, notamment à domicile avec le FC Nantes. Et puis, pour le coup, Antoine Comboiré, même si l'aventure n'était pas idyllique avec Valdemar Quitta, ils n'avaient pas une très très bonne relation à l'époque. Il a gardé de bons rapports avec certains cadres du vestiaire. Je pense à Jean-Charles Castelletto, par exemple, qui a plutôt bien accueilli le retour de Comboiré. Donc, il n'est pas le seul. C'est un retour qui fait plutôt sens pour certains cadres sur lesquels il faudra s'appuyer pour la fin de saison, et Nantes en aura besoin. Donc je pense qu'il c'est quelqu'un de respecté, qui a de la poigne, et il aura peut-être un peu plus de voix, et il sera peut-être un peu plus entendu que son prédécesseur, même s'il était malheureux dans une mauvaise passe ces dernières semaines, malheureusement.
Non, Hugo Guillemet, Goguenard.
Je t'ai aidé là. Bah oui, parce que les miracles, ça arrive une seule fois. Comboiré a réalisé son miracle. Moïse, il a ouvert la mer une seule fois aussi, et là, ça ne va pas se reproduire. Et la bonne décision, il aurait fallu la prendre bien avant et garder Pierre Aristouy, qui était 11e au moment où il a été débarqué. Donc en fait, c'est une succession de très mauvaises décisions qui entraîne une décision qui n'est même pas une bonne ou mauvaise décision en fait. C'est une décision par défaut qui est prise en lisant le journal. Je trouve ça complètement pathétique.
Ouais. Ok. Hervé Penaud, c'est un oui franc et massif. Vous avez 20 secondes et 30 centièmes.
L'erreur est évidemment de se séparer d'Aristouy, mais à un moment, on a fait une erreur, on a le droit de la corriger. Et il la répare avec l'arrivée de Comboiré. Comboiré connaît parfaitement l'effectif, parce que là, il faut aller vite. Hein. Il n'y a pas à rigoler. Il y a eu défaite sur défaite. Il faut quelqu'un qui puisse être tout de suite dans le coup. Lui, il connaît parfaitement l'effectif. Il connaît parfaitement la Ligue 1. Il le suit encore aujourd'hui. Donc, quel était le meilleur entraîneur pour pouvoir justement sauver ce qui peut être sauvable dans cette équipe de Nantes?
Bernard Lens, vous répondez non. Quels sont vos arguments?
Ben moi, je vais répondre déjà à la question, puis élargir un peu le débat. Ce qui m'agace prodigieusement dans la question, c'est le « enfin, une bonne décision ». C'est-à-dire que c'est toujours du bashing systématique contre M. Valdemar Quitta. C'est-à-dire que depuis qu'il a racheté le club en août 2007, il n'a pris que des mauvaises décisions. Alors, ok, on peut discuter de son management des entraîneurs, ça je suis d'accord. Mais je rappellerai qu'il a fait monter deux fois le club, qu'il a mené deux fois en finale de Coupe de France, dont une victoire, que c'est son argent personnel, et que s'il n'y avait pas M. Quitta, le FC Nantes serait certainement pas là, et que je vous graverai à certains monuments périls historiques, comme les Girondins de Bordeaux et la Saint-Étienne.
Il te reste 20 secondes. Il te reste 20 secondes.
Didier, oui. Didier, c'est dans le contrat de Bernard de parfois être un peu généreux avec le chrono. Oui, et que quelqu'un puisse défendre Valdemar Quitta un petit peu plus, c'est bien, parce que c'est vrai que Valdemar est souvent éreinté dans cette émission.
Si je vais. Non, mais il y a de la prison ou pas?
Bernard, on ne comprend rien.
J'aurais ajouté qu'il avait été visionnaire avec le Yellow Park.
C'est un jaune pour
Bernard. Et que c'est les écolos à Nantes qui ne veulent pas de son stade futuriste.
Non, mais il n'est combien la pérennité
de l'histoire du Yellow Card.
Merci.
Bébé.
Ça.
De glaçons.
Deuxième glaçon. Merci beaucoup, Bernard. Ça fait toujours plaisir. Sur ce super duel, donc vous êtes plutôt. Vous avez la sensibilité d'Hugo et de Bernard, ou de Benjamin et d'Hervé. Président, à vous de trancher. Enfin, une bonne décision.
Cuit, les canaris sont cuits. Non, pas forcément. Il reste 8 journées, là.
Oui.
Bon. Ils sont barragistes, mais à portée de, hein, de
oui,
voilà,
oui.
Les autres sont un point, deux points,
voilà,
quelques-uns, parce qu'il y a,
25
y a,
points,
y a quand
ils
même
ont
pas,
un point
pas,
de,
pas mal d'équipes.
Derrière l'Orient.
Il fallait faire quelque chose, parce que là, c'est sûr, tu as dit 7 défaites d'affilée
à domicile.
Mmh. Bon, on sent bien, qu'est-ce que tu veux, c'est pas un mauvais entraîneur, Justin Gourvennec, mais là, c'est pas passé, c'est comme ça, ça arrive même à des grands entraîneurs. Ancelotti est le gars qui s'est fait le plus virer du monde, alors qu'il y a tous les titres possibles et imaginables, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais je pense que du coup, alors est-ce que je suis objectif, parce que j'aime beaucoup Antoine, pour des tas de raisons, mais il me semble que là, il faut parer au plus pressé. Effectivement, comme tu le dis, il y a des cadres, des machins. Il a laissé que des bons souvenirs d'une manière générale. Il y a la finale de la Coupe de France où ça bombe 4-0 contre Toulouse, où c'était 4-0, c'est ça? Bon, voilà.
Oui.
5-1. Il aime le combat, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est le. Il connaît tout le monde, tu vois. Il n'y a pas le temps d'adaptation, mais comment il fonctionne là, mais qui est quoi, qui est qui, etc. Mais si, c'est la question.
C'est quand même
vachement important.
Mais du coup, c'était une bonne décision de le prendre la première fois, puisqu'il a gagné.
Est-ce que c'est enfin une bonne décision?
C'est pas la première bonne
décision. Ah non! Le enfin, effectivement, pour Valdemar Quitta.
C'est
du français. Moi, je réponds à la question.
On peut t'enlever, Laurent. Est-ce que c'est une bonne décision de le prendre ou c'est pas une bonne décision?
Si tu me poses la question, est-ce que c'est une bonne décision de prendre Antoine Comboiré, je te réponds bien sûr que oui. Je te réponds bien sûr que oui. C'est une bonne décision. La question, c'est est-ce enfin une bonne décision de Kita? Je te réponds non.
Votre allié sur ce débat avait un autre point de vue. C'est une succession de mauvaises décisions.
C'est 3 contre 1.
Moi, j'ai relu des choses il y a à peu près un an, lorsqu'Antoine Comboiré se fait débarquer. Il était un peu à court de solutions, il y a un an, avec, on va dire, un groupe quasi identique. Comment pourrait-il faire des miracles avec ce groupe qui est, on va dire, quasi inchangé, qui s'est même peut-être un petit poil affaibli?
Oui, mais la différence à l'époque, c'est, rappelez-vous, le nombre de matchs qui s'étaient enchaînés. Ils avaient joué la Coupe d'Europe, c'était un effectif qui était rincé. Et effectivement, à un moment donné, même lui, on était certainement un peu fatigué. Je peux quand même
faire quelque chose. Là, il s'est régénéré aussi. Lui, s'est régénéré. Tu prends un gars qui depuis un an, est en forme. Quoi.
Et puis aujourd'hui, à Nantes, pour arriver à faire quelque chose, il faut connaître le fonctionnement interne du club.
Qui est déjà très spécial.
Lui, Kita, il le connaît parfaitement. Donc aujourd'hui, il est dans les chaussons facilement. Il avait déjà prévenu Kita la dernière fois. Pas qu'il rentre dans le vestiaire. Et d'ailleurs, Kita, dans l'interview qu'il donne dans le journal, il, d'une certaine manière, il dit, bah oui, je sais comment il fonctionne, ça n'a pas toujours été facile, mais voilà.
Valdemar Kita a utilisé, depuis qu'il est arrivé au FC Nantes, 17 coachs différents. Reprendre un coach, est-ce que c'est déjà arrivé? 17 différents. Il n'y a pas eu 17 changements, d'accord, mais il y a 17 coachs. Et reprendre un coach qu'il a déjà viré.
C'est déjà arrivé, ça, avec Nazar Kerian, Jean-Baptiste
Gentil. On va en parler.
Tanguy Lousséville.
On va en parler, justement.
Deux fois, Tanguy, toi aussi
Valdemar,
t'as pris.
Je suis là, pas de souci. Le retour d'un ex à Nantes, effectivement, c'est déjà arrivé avec donc Michel Derzakarian, qui était là lors de la saison 2007-2008. Mais effectivement, entre 2012 et 2016, il était également présent, Michel Derzakarian, avec une relation parfois un petit peu orageuse avec Valdemar Kita, qu'il avait notamment comparé à une deux chevaux quand Claudio Ranieri avait signé, qui lui avait été comparé plutôt à une Mercedes. durant cette saison 2016, eh bien, Michel Derzakarian avait annoncé son départ en fin de saison. Je n'ai plus envie de travailler avec Monsieur Kita, qui répliquera en coupant la sono alors qu'il avait fait ses adieux lors de la dernière journée devant la Brigade Loire. Dans l'équipe, Michel Derzakarian se confiera sur leur relation. Comment j'ai fait pour cohabiter 4 ans avec lui, je ne sais pas. Reste également une scène en mai 2021 quand le Montpellier héros de Michel Derzakarian envoie Nantes en barrage dans le couloir. Eh bien, Valdemar Kita lui adresse ces mots-là. T'es content, Michel? Réponse, oui, je suis content pour vous, mais pas forcément pour le FC Nantes.
Voilà. Jean-Baptiste Gentili, il l'a pas fait deux fois?
Baptiste.
Oui, j'ai dit Jean-Baptiste. Baptiste. J'espère que tu vas bien.
Peut-être Baptiste.
Ce qui était énorme, c'était Léo Jardim à Monaco. Il avait pas
aussi, oui.
Ses indemnités.
Ouais. Des fois. Et là, ça n'avait pas marché.
Conférence de presse d'Antoine Comboiré. Demain, on y sera, mes petits, pour évidemment avoir peut-être guetté quelques petites phrases comme ça.
Ça va être sympa.
Entre Valdemar Kita et Antoine Comboiré, là. Hein. Dans quelques minutes, la suite l'équipe du soir, des informations sur l'arbitrage avec une interview de dernière minute d'Étienne Moati qui a interviewé plutôt le patron de l'arbitrage français, Anthony Gauthier, qui a deux, trois petites choses à nous apprendre sur la sortie de crise, peut-être, de l'arbitrage français en cette saison extrêmement compliquée. À tout de suite. Vous regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison. On est ensemble jusqu'à 1h du matin en compagnie de Bernard Lyon, Hugo Guimet, Benjamin Quarez, l'homme qui a une veste incroyable, c'est Hervé Penaud. Ouais, c'est ouais.
Et le poste dessous. Hein.
Et une cravate incroyable, Didier Roustan, notre président adoré. Ça le minuit info, dégainé par Tanguy Le Sévillier. Une image choc pour débuter votre journal. On est à Miami avec le malaise du tennisman français Arthur Cazot en plein match.
Oui, c'était face à Harold Mayo. On va voir Arthur Cazot, hein, le Montpellier. Il est en bas de l'écran, en blanc. Il va s'effondrer durant le troisième set. A priori, à cause de la chaleur, il a été évacué derrière en fauteuil roulant. Harold Mayo, qui est en haut de l'écran, est bien allé prendre de ses nouvelles. On le précise parce qu'il a déjà reçu de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux. A priori, voilà, ça va un petit peu mieux pour Cazot. Mais on va évidemment vous tenir informé.
Les messages de haine sur les réseaux sociaux, c'est quoi?
Les gens expliquaient qu'il n'était pas allé assez vite prendre des nouvelles d'Arthur Cazot.
Oui, d'accord. Non, c'est pas à propos d'Arthur Cazot, c'est à propos de l'arbitre. D'accord.
Vous n'avez pas parié sur sa victoire?
Non. Voilà ce que je vous sens. Premier jour des stages des Bleus à Clairefontaine et un forfait d'envergure.
Oui, c'est celui d'Antoine Griezmann qui était un élément essentiel du dispositif de Didier Deschamps. Il est forfait, touché à la cheville, remplacé par Matteo Guendouzi, auteur d'une grosse saison à l'Aladodrome où il est désormais un titulaire indiscutable. Une info en plus qui va le concerner, Matteo Guendouzi, dans les prochains jours, prochaines semaines, puisqu'on connaît son nouvel entraîneur à Rome. C'est un homme qu'il connaît bien, puisque ce sera Igor Tudor. Les deux se sont côtoyés à Marseille avec des hauts, avec des bas.
Voilà, image d'archive pour le prouver. L'entretien du soir, à présent, ça se passe sur le site L'Équipe actuellement.
Ça va être fort. Oui, c'est effectivement, c'est Anthony Gauthier, le patron de l'arbitrage, qui a été interviewé par Étienne Moati. Plusieurs citations qu'on va vous résumer un petit peu. C'est la nouveauté, le recours à l'assistance vidéo à des fins managériales dans des moments particuliers. Deux exemples, dans le temps additionnel, si un pénalty est sifflé, même si l'arbitre est sûr de lui, il peut être opportun de se déplacer devant l'écran pour asseoir la décision. De même, si en début de rencontre, un carton rouge est sorti, même si l'arbitre n'a pas de doute, il est autorisé à se déplacer. L'outil de l'assistance vidéo doit être davantage autorisé. C'est une évolution.
Donc l'arbitre consulte, on va dire, pour adoucir, on va dire, les polémiques, adoucir l'ambiance, systématiquement donc son écran de télé de la VAR. Est-ce une solution du bricolage? C'est le débat du Minuit Info jingle. Pour vous, c'est...
Très bonne idée.
C'est une très bonne idée.
Très bonne initiative parce que...
Hervé, allez-y.
Non, c'est une très bonne initiative parce qu'en ce moment, on sent qu'il y a une tension assez incroyable. Et on demande toujours aux gens, mais allez-vous déplacer sur des moments clés d'un match. Une expulsion en début de match, évidemment, là, ça change radicalement le sens du match par la suite. Et un pénalty en dernière minute, là, c'est pas une histoire de on va perdre 12 ou 15 minutes, puisqu'on sait que de toute façon, c'est quasiment la fin du match. Qu'on se déplace, ça mange pas de pain. Tout le monde, comme ça, est un peu tranquille.
C'est du bon sens pour vous.
C'est simplement du bon sens. Alors, je dis pas que c'est la panacée, hein. C'est l'œuvre ultime de l'arbitrage français. Mais en revanche, ça permet d'apaiser les tensions qui sont énormes en ce moment.
Ok. Vous avez du mal à comprendre, Bernard.
Mais ça revient à dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Qu'il le faisait pas.
Mais il le faisait si la VAR l'appelait.
Oui.
Il le faisait pas de lui-même.
Donc, c'est élargi sa capacité à aller vérifier les images.
Oui.
Moi, je croyais que c'était l'arbitre principal qui était...
Ça va être une aide, quoi, un
peu, quelque part. Qui était maître de ses décisions et qu'il était, il n'était pas soumis comme un petit toutou aux décisions de la VAR. Donc, je ne comprends pas trop.
Non, mais du coup, on va où, en fait? Il n'a qu'à arbitrer avec un iPad et il regarde le match et il a tous les ralentis. Ou même, il n'y a plus d'arbitre et on arbitre directement en vidéo, en fait, avec un signal sonore quand il y a une faute.
Mais ce n'est pas de l'arbitrage, ça, là. Ce que nous explique Anthony Gauthier, ce n'est pas la notion d'arbitrage, c'est de la notion de faire passer peut-être une décision, de pouvoir être un peu plus pédagogique. C'est peut-être qu'une mise en scène.
Mais si après, à l'image, il change d'avis? Alors là, tu fais passer, c'est un
drôle de... Le VAR a cristallisé plus de tensions entre les joueurs et l'arbitre qu'avant qu'il y ait le VAR, que l'absence du VAR. Bah oui, c'est vrai.
On oublie beaucoup de tensions qu'il y avait avant. Ça me fait un peu sourire quand j'entends ce type d'argument, parce qu'avant, les débats qu'on a faits sur l'arbitrage quand il n'y avait pas le VAR, c'était, on en faisait tout le temps. Aujourd'hui, il y a des faits précis.
Non, il y a des nouvelles polémiques qui apparaissent.
Voilà, sur les erreurs du VAR, maintenant. Maintenant, on fait des débats sur les erreurs du VAR, parce que le VAR ne convoque pas certains arbitres, parce que...
Voilà. Non, sur les interprétations. C'est l'interprétation, soit du VAR, soit de l'arbitre, même quand il y a...
Moi, je me pose la question, si c'est de la pédagogie ou une mise en scène.
C'est une
manipulation.
Manipulation, c'est négatif.
Une petite manipulation.
Manipulation, c'est négatif. Mise en scène, je ne dis pas que c'est positif, mais ça va un peu mieux. C'est plus arrondi, je préfère. Évidemment, c'est une forme de mise en scène. Mais vu les tensions qu'il y a actuellement, mais c'est quand même de l'intelligence simple et pure d'essayer de se dire si on trouvait
elles ne résultent pas du fait que l'arbitre ne se déplace pas sur le bord du terrain pour aller vérifier les images. Elles résultent du fait de l'interprétation des images par le VAR.
Oui.
C'est ça les tensions. Ouais. Et d'ailleurs, même les arbitres...
Donc ça répond pas à la question.
Expliquer que les directives étaient quand même un petit peu fluctuantes, pour pas dire changeantes, ils n'avaient pas d'harmonisation.
Pas tout à fait, quand même.
Récemment, on a eu quand même des cas où certains entraîneurs se sont plaints du fait que l'arbitre ne se déplace pas pour aller voir les images de lui-même. Certainement dû au fait, parce que la VAR de l'appel ne lui dise pas de le faire, mais pour le coup, récemment se plaint de ça. Donc qu'on incite les arbitres à le faire, c'est quand même plutôt positif.
Ouais, mais alors... Pourquoi à la première minute, enfin si c'est un rouge ou quelque chose comme et un pénalty à la dernière minute, c'est assez peu courant, hormis le match Rennes-Lyon, peut-être cette saison et tout, où il y a eu un exclu logiquement d'ailleurs, je pense, assez rapidement à Rennes. Ou alors l'arbitre, tu lui dis, si vous avez un doute, n'attendez pas au truc, allez-y, et on n'en parle plus. Ça va être la prochaine étape.
Ouais.
Ouais, je sais pas.
Retour à Clairefontaine avec les espoirs. Thierry Henry rappelle Ryan Cherki, ça, on vous en parle dans quelques minutes. Le coach français a été interrogé sur les JO de Paris. Les détails avec vous, Tanguy.
Ouais, pour lui, pour le sélectionneur des U23 pour ces JO, ce ne sera pas évident de concocter sa liste puisque les clubs auront toujours le dernier mot. Et le Real Madrid a déjà prévenu qu'il ne libérerait pas ses joueurs actuels. On l'écoute, Thierry Henry.
Et c'est les JO pour nous, ici, c'est la France. Les clubs français, je pense, vont être là pour aider. Mais les clubs à l'étranger, c'est normal qu'au départ, il y a un peu cette... Enfin, c'est même pas une réticence, c'est carrément un non. Donc voilà, oui, j'ai vu l'email, je m'en doutais. Je ne me suis jamais arrêté au premier non, en général. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais à l'arrivée, la décision reste malheureusement... Pour nous, bien sûr, au club.
Je ne me suis jamais arrêté à un nom. Est-ce que vous comprenez l'insistance de Thierry Henry? Bah oui. Tout le monde la comprend. Bah
oui. Oui. Mais quand une fille en boîte de nuit veut pas, bah oui. Te dit non, que tu l'invites à un slow, tu... Tu ne vas pas, tu dis, ouais, mais bon, bah, tu vois, c'est la fin. Enfin, je dis, bah, non, mais c'est quoi ce non? Je vois dans vos yeux qu'il y a un oui, et vous me dites un non. Donc,
j'en lancerai pas sur cette séquence. On est sur un terrain glissant, mon Didier.
Mais en plus,
pour Thierry Henry, les jeux sont pas faits.
Tu peux t'arrêter à un non, quand même.
C'est un nom officiel. Après, je suppose qu'il va y avoir des tractations, de la diplomatie, d'essayer d'assouplir toute règle souffrant son exception. Il va essayer d'obtenir une exception pour Mbappé parce que c'est un enjeu très important pour le football français, mais aussi pour la vitrine qu'est les JO, parce que des JO en France avec une équipe de football sans Mbappé, alors que la question c'était quand même. C'est pas comme si c'est une question qui se pose aujourd'hui. C'était un truc qui était récurrent depuis des années. Mmh. Et on a appâté un peu le chaland en lui disant, voilà, on va avoir Mbappé. Puis au final, t'as pas Mbappé, quoi. C'est comme si c'est une compétition, il y a pas Teddy Riner, etc., etc. Voilà. Et après, autre chose que je trouve qui est très intéressant dans ce débat, c'est que ça pose quand même un peu le flou juridique qui entoure, la compétition de football aux Jeux Olympiques.
Il en a parlé, Thierry Henry, hein.
C'est pas sur des...
C'est pas une dalle FIFA, mais il va falloir que ça en devienne une. C'est ce qu'a dit Thierry Henry aujourd'hui.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on va pas faire de l'histoire, mais si on remonte en arrière, quand même, il faut se rappeler que la compétition de football aux Jeux Olympiques a été la première au niveau international qui a été instaurée.
1924, les Uruguayens et 28, les Uruguayens.
Ouais, 24. Non, mais 24 en France et 28 aux Pays-Bas. Mmh. Et d'où le fait que l'Uruguay a ses deux étoiles.
Quatre étoiles. Puisqu'après il y a les deux.
Non, mais 24, 28 et 30 et 50. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut développer le football aussi au niveau olympique. On voit beaucoup de joueurs, les Messi, Cristiano Ronaldo, comment il s'appelle, Neymar, etc., qui les ont disputés. Moi, je ne vois pas pourquoi, vu l'importance de cette compétition, ça ne serait pas inscrit aussi dans le cahier.
Ça serait plus réservé aux U23, du coup. Ça serait pour tout le monde.
Ah ben, après, tu peux mettre des barrières, tu peux le codifier différemment.
Donc c'est compliqué. Mais tu crées un rendez-vous.
Et tu crées un rendez-vous dans les dates.
Tu peux trouver un compromis. Il y a toujours que trois joueurs. Oui. C'est ça, trois joueurs.
Bah, les autres sports co, basket.
Depuis 23. Non, mais c'est dommage que le football, si tu veux. Alors, pour la Coupe du Monde, tu vois, ça devient les Jeux Olympiques. Mais tu dis, par club, il y aurait un maximum de deux joueurs qui vous concerneraient, quoi, si tu veux. Tu vois.
Non, mais après, là, c'est parce qu'on est en France.
Ou un joueur, si vous êtes un... Je sais pas.
Mais oui, on est en France.
Non, mais c'est parce qu'on est en France. Mais les derniers JO, tout le monde s'en moquait bien.
Je suis bien d'accord. C'est parce joueur, qu'on est à Paris.
Bien d'accord. Donc alors, si chaque pays...
Oui, oui.
Exactement.
Là, tu parles en France. Mais j'insiste quand même. Pour les Argentins, c'était très important.
Bien sûr.
En Espagne, ils sont obligés de libérer les joueurs.
D'accord. Au Brésil, pareil, avec Neymar. Et quand tu
les joueurs africains et tout qui avaient fait la CAN.
Avec les joueurs, je veux dire, c'est des joueurs, c'est une compétition qu'ils veulent disputer.
Hugo, je me pose la question, parce que c'est compliqué de faire venir les joueurs qui sont, on va dire, sur le continent européen, qui jouent, donc on est en train de parler d'Mbappé. Benzema au JO. Non mais, il a pris sa retraite internationale. Benzema au JO.
Il a dit que l'équipe de France s'était terminée.
L'équipe de France, avec des chances. Mais l'équipe de France, espoir, avec Thierry Henry.
Ah oui. C'est l'équipe de France.
Il faut se poser la question de est-ce que là, au niveau où il joue aujourd'hui et tout, ça lui permet de postuler dans la sélection de Thierry Henry. Voilà.
Il y a un doute.
Il y a un flou.
Bah, il faut répondre à cette question.
D'accord.
Ensuite, est-ce que lui a envie de revenir à Clairefontaine? Enfin, ce ne sera pas à Clairefontaine.
Avec des joueurs de 21 ans.
Pendant la prépa et puis ensuite avec voilà avec. Avec des joueurs plus jeunes et puis avec le maillot de l'équipe de France.
Bon, on peut lui poser la question déjà.
Mais pourquoi pas? Après, j'y ai pensé aujourd'hui, mais après la conf de Thierry Henry, je me suis dit, pour la prochaine conf, ça peut être une bonne question.
Une bonne question?
Eh bien, on va.
Ah, on a pu sélectionner notre question, là.
Alors, on va lancer une pétition
pour que Benzema. Olivier Ménard va faire revenir Benzema.
Ah non, bravo, Olivier. Non, c'est Benzema.
Bravo, Olivier. Bravo. Rémi a toujours été force de proposition. C'est dans l'ADN des journalistes de l'équipe.
Si la partie Poggio, ça sera partie de vous.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui.
Merci les copains. Fin de la 25e journée nationale ce lundi soir avec la victoire du leader, le Red Star, qui se déplaçait à Villefranche-sur-Saône.
Et une victoire encore pour le leader cette saison en national. C'est Ivan Botella qui est au départ de l'action. Il va profiter de la passe complètement volontaire de Jonathan Heckmeyer pour ouvrir le score. Botella, on va le retrouver sur ce coup franc. Chanceux également, puisqu'il est dévié par le mur. Ça arrive sur la tête de Ryan Doucouré, l'ancien Rennais. C'était son premier but sous les couleurs du Red Star. 16e victoire en 25 matchs cette saison pour l'équipe d'Abid Bey, qui caracole en tête du championnat. 7 points d'avance sur Niort, qui est 2e, Villefranche, et 13e et premier relégable.
Passons au rugby. La France est toujours 4e nation au classement mondial.
Oui, avec sa victoire samedi soir contre l'Angleterre, la France est toujours au pied du podium sur ce classement mondial, un classement dominé par l'Afrique du Sud, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. À noter qu'en rugby, à Toulouse, Romain Ntamack et Antoine Dupont étaient de retour à l'entraînement ce lundi. Allez,
la visite du jour chez nous, les frères Lebrun ont participé à l'équipe de choc.
Oui, c'est ça, ils étaient sur le plateau de France Pierron. Si Alexis Legrand pointe à la 20e place mondiale, Félix, lui, sera 5e ce mardi. Devant lui, que des Chinois, ce seront ses principaux adversaires pour les JO. Il en parle, justement.
Alors, imbattable, non, mais pour l'instant, c'est les plus forts. C'est sûr que c'est super dur de les battre. Ils ont les 5 meilleurs joueurs du monde, là, pour l'instant, dans leur équipe, donc forcément.
Jusqu'à demain?
Jusqu'à demain, normalement. mais du coup, ouais, c'est vraiment la nation du ping. Donc forcément, c'est dur. Ils ont des moyens considérables. Et nous, notre but, c'est de continuer à progresser. Je pense que chaque match qu'on fait contre eux, ça nous aide à progresser pour la suite et pour espérer les battre un jour.
Voilà. Ça, c'est vos chouchous, les frères Lebrun, Bernard?
Oui, parce qu'on est originaire du... Non, parce qu'ils sont originaires du même département des Alpes-de-Provence. Et j'avais passé une journée avec eux, sport et littérature,
ils en parlent
à Manosque.
Pas,
et le papa...
Ils ont fait l'accent. Vous avez un petit accent.
Pardon?
Non, vous avez un petit accent, oui, petit truc.
C'est vous qui avez un accent. Et le papa était de Manosque, et là, ils ont installé toute leur structure du côté de Montpellier.
Okay. Et un accent pointu à Barcelonette? Ou à Pralou, peut-être?
À Pralou, de temps en temps, ouais. Mais à Barcelonette, non, c'est le cœur de l'humanité, tu sais bien.
Pogacar, des nouvelles, il a été battu donc samedi lors de Milan-San Remo. Pogacar battu à nouveau aujourd'hui sur le Tour de Catalogne.
Ouais, ça s'est passé dans le dernier kilomètre de l'étape. C'était la première étape de ce Tour de Catalogne. C'est Nick Schulz, le coureur d'Israël Premier Tech, qui a réussi à fausser compagnie à tout le monde au niveau de la flamme rouge. Et Tadej Pogacar, on va le voir, eh bien, il va essayer de combler ce retard jusqu'au dernier mètre de la course. Finalement, il termine deuxième. Premier français de l'étape, c'est Dorian Godon qui termine cinquième de cette première étape du Tour de Catalogne.
Une grosse performance plus une victoire, eh oui, pour Victor Wembanyama. L'année dernière, on parle bien sûr de NBA.
Une victoire face aux Brooklyn Nets, seulement la 15e en 68 matchs cette saison pour les Spurs. Notre Frenchie a encore été déterminant avec 33 points, 15 rebonds et 7 passes. Autre information confirmée, la présence des Spurs à Paris en 2025. C'est Greg Popovich qui l'a annoncé à l'issue de la rencontre. Autre information qu'on vous donne, c'est Bilal Koulibaly qui jouait avec Wembanyama la saison passée chez les Mets de Boulogne, le Valois. Et bien, pour lui, c'est la fin de saison, fracture du poignet droit avec les Washington Wizards.
À 130 jours du début des JO, Thomas Hurtel ne sait toujours pas s'il pourra les disputer.
Oui, la raison est simple. Hein. Il évolue en Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, ce qui lui interdit pour l'instant de porter le maillot bleu en équipe de France de basket. Je le précise, hein, parce qu'il a évoqué cette situation sur la chaîne YouTube De Nuit Avec, en lâchant une phrase qui pourrait vous faire réagir.
Ben, je la comprends pas, parce que soit tu me fais pas jouer ou soit tu me fais jouer, quoi. Pas quand ça t'arrange et quand...
ça t'arrange un peu moins, ben, tu m'oublies. Il y a un mec ici, après moi je suis pas bon dans les noms, mais il y a un mec ici qui fait du volley, qui est franco-russe, et que lui, il a le droit de participer par exemple aux JO, etc. Et il est même en équipe de France, etc. Non, j'ai pas fait une croix sur les JO, mais bon, voilà quoi. Personne m'a contacté. C'est moi qui a dû contacter le staff, etc., etc. de l'équipe de France. Je les ai sentis motivés, mais bon, après, ça dépend pas d'eux, quoi. Après, l'équipe de France, bah, j'en ai déjà parlé hier, Sinister Chart, etc., tout le monde est au courant, et je vais en Russie, bah, c'est le meilleur choix pour ma carrière, voilà, quoi. Moi, on dirait que je suis un peu le Anelka du basket français. Non, en vrai, tu vois.
Voilà, c'était Thomas Hurtel qui ne peut pas jouer en équipe de France.
C'est ce que moi, je trouve ça scandaleux. Je ne vois pas pourquoi. Effectivement, le volleyeur a le droit. Mais de toute façon, moi, je serais beaucoup
plus. Génial, Ibrahimikov.
Oui, mais moi, j'irais beaucoup plus loin parce que je ne trouve pas normal déjà qu'on interdise les Russes. Donc, ça, c'est encore un autre débat. Donc, lui, qui est français et qui joue en Russie, il gagne sa vie en jouant au basket. Alors, mettons, on l'interdit. Vous avez des joueurs russes qui jouent en France, que je sache, en football. Ça ne pose pas de problème. Golovin, il joue bien à Monaco. Ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas pourquoi lui, étant là-bas. Alors, je sais que c'est le règlement de la basket. Enfin, ça vous fait bizarre qu'on voit qu'un volleyeur fait la même chose et lui, il a le droit de jouer en équipe nationale.
Ok.
Il faut faire une pétition pour qu'il ait le droit de participer aux JO. Et là, René, on est le jour du 18 mars. Et
je ferai un chapitre dans le post-mortem sur cette
histoire de pétition. Et Didier, ouais. On pourrait même avoir la signature d'Arnaud Nordin, qui est un très bon joueur.
C'est un bon joueur.
Bah, mais c'est pas Jean Rastord.
Oui, mais c'est un très bon joueur.
Henri, rappel, merci Tanguy.
Bon joueur, mais ça reste
Oui, mais c'est un très bon joueur.
C'est bon, pas Jean Zinou.
N'est-ce pas le chevalier, silence. Henri rappelle Cherki. Ryan Cherki rappelé parti Henri donc chez les Espoirs. Jeudi dernier, le sélectionneur l'avait zappé des listes. Mais les blessures de Giorgino Rutter, de Leeds, et de Joris Chotard, Montpellier, on verra une fenêtre à un retour. Un retour aussi motivé par le grand match du Français vendredi soir à Toulouse. Un but plus une passe décisive en 30 minutes chrono. Et on prend la machine à remonter le temps. C'est Pierre Sage vendredi soir qui déclarait ceci à propos du match de Ryan Cherki, le vrai Cherki. Regardez.
Je pense ce soir que vous avez vu le vrai Ryan Cherki, en tout cas celui qui doit être au quotidien pour être le joueur qu'il peut être. Je pense que lorsqu'il est comme ça, il est un joueur de très haut niveau. Et voilà, c'est pour ça qu'on est toujours après lui de manière à ce qu'il aille chercher ses ressources et qu'il soit capable de prendre les matchs en main. C'est un joueur de très haut niveau et il doit être prêt à y aller parce qu'en fait... en se laissant vivre sur son talent, je pense qu'il peut passer à côté de quelque chose. Alors que franchement, il a tout pour faire un très très bon joueur et un joueur que j'adorerais regarder. Et je lui souhaite vraiment le meilleur si toutefois il suit cette trajectoire-là. En fait, quand il rentre, je lui ai posé une question, je lui ai demandé s'il était énervé. Il m'a dit oui, j'ai dit ça tombe bien. Donc je pense que c'est un sentiment qu'il a besoin d'activer pour hausser son niveau de jeu et de le mettre à la hauteur de son talent.
Cherki se laisse un peu vivre sur son talent. Alors Ryan Cherki, constant, régulier, est-ce que c'est mission impossible? Non, j'y crois encore. Ça, c'est du Benjamin Quarez.
Oui, tout à fait.
Vous y croyez encore aussi. Enfin, c'est oui, presque une religion, quoi. Ouais, on y croit.
On débat sur ce joueur depuis déjà plusieurs années, tellement il a démarré tôt avec l'Olympique Lyonnais. Donc oui, moi, j'y crois encore parce que ça reste un jeune joueur. Il n'y a pas beaucoup de jeux dans cette équipe de France Espoir. J'ai fait le calcul. Il fait partie des plus jeunes, finalement, parce qu'il y a 3-2005 et lui, il est 2003. Donc ça doit être l'un des 4 plus jeunes. Et j'ai noté que dans les dernières rassemblement équipe de France Espoir, c'était quand même le joueur les plus réguliers par ses performances, avec ses nombres de buts marqués, passes D. On peut quand même dire que sur le début de mandat de Thierry Henry, c'était un des joueurs offensifs les plus impactants. Donc oui, moi j'y crois parce que j'ai vu des matchs de Ryan Cherki sur lesquels il pouvait porter son équipe. Maintenant, effectivement, j'ai fait le même constat que tout le monde, c'est-à-dire que sur la régularité en club, force est de constater qu'on n'arrive pas à avoir le Ryan Cherki de vendredi soir qui est capable de prendre le match à son compte et de mener son équipe à une victoire certaine. Donc il y a ce sentiment de frustration, c'est pour ça que je dis que j'y crois encore parce que on a suffisamment débattu sur ce plateau pour dire que Ryan Cherki était en permanence incapable de confirmer ses qualités et forcément...
Il n'y a pas une chanson d'amour qui j'y crois encore
Si, bien sûr.
Céline Dion ou Hélène Segarra?
Non, mais je ne connais pas bien le répertoire.
On est vivant tant qu'on est fort. J'y crois encore.
Sorti de Chantal Goya.
Je crois que c'est Céline Dion. Hein.
Céline Dion,
j'y crois encore. Mais je vais pas vous. Non, c'est trop. Non. Vous allez vous briser. Vous allez vous casser la voix. C'est une autre chanson. Et Hugo Guillemet également. Vous y croyez encore ou pas? C'est Lara Fabian. Excusez-moi.
Lara Fabian.
Ouais, Lara Fabian. Excusez-moi. Hugo Guillemet.
En fait, on est obligé, tant qu'il est. Qu'il se maintient dans un club de très haut niveau, on est obligé d'y croire parce que il est capable de renverser la table comme il l'a fait à Toulouse. Et c'est une entrée à Toulouse. Il faut pas, sans exagérer, c'est très rare de voir une entrée aussi impactante en Ligue 1, alors qu'il était au fond du trou. Il était au fond du trou, il jouait plus depuis des semaines, voire des mois. Enfin, depuis l'arrivée de Pierre Sage, il jouait plus du tout, il était plus titularisé. Il n'avait pas été appelé par Thierry Henry. Donc là, il n'y avait même plus l'espoir de participer aux JO, parce que s'il ratait ce rassemblement, il faisait quasiment une croix sur les JO. Et là, finalement, en 30 minutes, il a réussi à renverser la table. C'est-à-dire que, à la fois, il a réussi à renverser un petit peu l'opinion de Thierry Henry, parce que il s'est dit, Thierry Henry, au moindre forfait, c'est lui que je vais rappeler. Il aurait peut-être eu un forfait de défenseur qui l'aurait rappelé aussi Cherki, parce que ça libérait une place. Et aussi dans l'esprit de Pierre Sage, parce que je suis convaincu qu'au prochain match de l'OL contre Reims à domicile, il va être titulaire. Parce il va vouloir voir ce que ça donne. Maintenant, c'est à lui, parce que Thierry Henry, il a fait des déclarations hyper intéressantes.
On y reviendra, mais juste avant. Le nouveau message, pas tout de suite, mon cher Tanguy. Pierre Sage, c'est le cinquième coach qui a tenté de manager Ryan Cherki. Alors, il y a eu Rudy Garcia qui l'a lancé, Peter Bosch, Laurent Blanc, Fabio Grosso et donc Pierre Sage. On va prendre une archive. On est le 14 avril 2023. Lyon se déplace déjà à Toulouse. Laurent Blanc qui nous parle d'un bon match de Cherki, d'une bonne mi-temps de Cherki. Écoutez, on a l'impression que c'est un jour sans fin.
Non, je suis satisfait de sa deuxième mi-temps, mais très insatisfait de sa première. Voilà.
Donc c'est pas terrible.
Ah ben, quand vous faites 90 minutes, 45 minutes de très bonne, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. À faire plus. Il a le talent pour le faire. Et on est tous d'accord pour le dire. Lui, il a la qualité pour être déterminant. Que ce soit dans le dribble, que ce soit dans la passe, que ce soit dans le but. Quand on lui offre la possibilité de marquer, il faut qu'il soit plus sûr que ce qu'il a été. Donc il apprend. Je suis intransigeant avec lui, mais en même temps, je suis assez tolérant quand même avec lui. Parce que je pense qu'après la première mi-temps qu'il a fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'ont élevé. Je pense qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il mette ses qualités au service de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Parce qu'offensivement, il a été bon et défensivement, il a été très bon.
À un an d'intervalle, on se dit que c'est, on va dire, un peu...
Mais il y avait même 2 ans avant et 3 ans avant.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer
le problème. Moi, c'est... Bon, je l'ai connu quand il a débuté. Hein, on l'a vu débuter à Lyon. Talon, etc. On sait. Ça rappelle un peu Ben Arfa. Hein, rappelez-vous quand il était à Lyon. Hein, et finalement, la carrière n'a pas été la carrière qu'on pouvait attendre d'un joueur de ce calibre-là. Et moi, ce que j'ai toujours pensé depuis le début, c'est que
la carrière de Ben Arfa, ça sera déjà pas mal.
Oui, aussi. Oui,
alors, mais, tu pourras mais, dire, non, par rapport au talent. Non, c'est toujours par rapport au talent, tu dis.
Oublié, pensé, disait toujours, c'est mon Messi.
Par rapport au talent.
Mais moi, je pense qu'à Lyon, surtout, ils l'ont déformé. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'ils lui ont laissé absolument tout faire. Aucun effort défensif. Comme c'est le plus doué il l'était.
En formation, tu parles.
Oui, en formation. Oui, c'est sur la formation.
Un peu gâté, quoi.
Un peu, mais c'est pas un peu gâté.
L'enfant roi.
Il ne faisait rien.
Il était ultra dominant, même physiquement, en formation.
Il était costaud. Donc, on l'a laissé tout faire. Et un jour, je sais que je me suis un peu pas frité avec quelqu'un qui est proche de son entourage. Parce qu'il disait, pourquoi tu le mets comme ça en difficulté? Alors que c'était moi, c'était plutôt l'attaque du club où j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez pas essayé de le recadrer un petit peu? Pourquoi? Parce qu'il leur faisait gagner tous les matchs, tellement il avait de talent. Alors aujourd'hui, c'est à lui de se prendre en main. Ça sera pas simple, attention. Ça sera vraiment pas simple. Non. Et ça se trouve, dans 4 ans, on aura une conférence de presse après un match à Toulouse et on aura un peu le même genre de débat. Donc à lui de travailler.
Il semblerait qu'on a un nouveau message.
Oui, justement, ça parle de l'Olympique Lyonnais. C'est Romain Lefoot qui nous pose cette question sur l'équipe Connect. Devrait-il partir de Lyon pour progresser dans sa carrière de footballeur? Il pose la question à vous.
Peut-être.
Il va partir.
Parce que
il lui reste qu'un an de contrat. Il est en situation d'échec. Le club aurait voulu le vendre. Il l'avait budgété à la DNCG au mois de janvier. Mais il n'y a pas eu d'offre pour lui. Et puis finalement, il est resté. Dans tous les cas de figure, s'il continue à être remplaçant à Lyon, il va chercher une porte de sortie forcément. Et s'il arrive à exploser sur la fin de saison dans la lignée de ce qu'il a fait à Toulouse, là, il aura des offres et il ne pourra pas prolonger parce qu'il a déjà un salaire très important à Lyon. Et donc, il partira aussi.
Dans les deux cas de figure,
je le vois partir.
Oui, mais ça, c'est son gros souci, c'est qu'il a un énorme salaire à Lyon.
Combien ?
Un peu plus de 300 000 euros. Ça fait de lui le 5 ou 6e joueur le mieux payé de l'effectif.
Okay. Donc ça veut dire que quand vous allez dans un club, il va falloir qu'il soit un club un peu du haut du panier, même si c'est en Allemagne, Mais il va falloir qu'il gagne au moins autant d'argent.
Mais oui, c'est mais pas comme gagné. Il lui reste qu'un an de contrat et qu'il a été en situation d'échec quand même cette saison, le prix du transfert va être un peu plus bas et du coup, Cherki, ça devient une opportunité de marché. Sur le talent, sur un gros club peut se dire, on le met dans l'effectif parce que...
Peut-être, ouais. Non, mais le talent, personne n'en doute.
Tiens, vous avez fait un parallèle avec Hatem Ben Arfa qui avait besoin, pour briller, d'être considéré comme le meilleur joueur de cette équipe ou de son équipe. Est-ce que c'est pareil avec Cherki?
Moi, donc, finalement, pas non, c'est pas comparable.
C'est pas comparable. Ah bah, expliquez-nous peut-être la différence.
Parce que c'est pas les mêmes caractéristiques.
Non, mais c'est un autre débat. Parce qu'on parle pas de caractéristiques. On parle de profil de carrière. Hein.
Oui,
pas
mais
caractéristiques.
Moi, je
profil
des
psychologique, même. Ouais, allez-y.
Parce que Cherki, on parle de qualité de dribble. Mais pour moi, sa principale qualité, c'est une qualité de passe. Il a un gros manque d'explosivité, de vitesse pour jouer sur des postes offensifs. Ouais. Et dans toutes ses caractéristiques, donc qualité de passe, vision du jeu, technique, il rappelle le numéro 10 à l'ancienne, un peu, qui n'existe plus. Mmh. Il excelle à chaque fois qu'il est mis en position de numéro 10. Sauf que plus aucun entraîneur ne joue avec un numéro 10. Mais un numéro 10 qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts défensifs et qui a besoin d'inventer des choses à chaque fois qu'il touche le ballon, là, il est très bon. D'ailleurs, quand il rentre à Toulouse, d'habitude, à chaque fois qu'il rentre à Lyon, il rentre sur un côté. Et à Toulouse, il rentre en numéro 10. Thierry Henry, à chaque fois qu'il l'a utilisé, et Benjamin le disait, c'est lui qui a les meilleures stats de l'ère Thierry Henry, et ben il a toujours utilisé en numéro 10 avec beaucoup de liberté.
C'est un profil anachronique alors.
Complètement anachronique.
Ouais, mais en 10.
Alors
en 10.
Que Ben Arfa, c'était un joueur qui était capable de faire des différences sur 80 mètres.
Oui, non mais on parlait du profil de carrière. C'est-à-dire que quand Ben Arfa est arrivé, je me souviens bien à Lyon, et tout le monde disait, mais c'est un phénomène, comme on a rarement vu un joueur comme ça. Tu parlais à des coéquipiers, ils disaient, tu n'avais jamais vu ça. Et la carrière qu'il fait au final, même s'il va à Marseille, même s'il va en Angleterre, il fait une méga saison à Nice.
La seule, ouais.
La saison pleine. La seule, par rapport au talent qu'il avait.
À Newcastle aussi. La blessure,
en équipe de France, l'attentat. Il a fait le switch avec le foot d'adulte. Et en revanche, en jeune, personne dominait les jeunes comme Cherki. Sauf que c'est quand il est arrivé dans le foot d'adulte qu'il a pas réussi à passer ce gap, qu'il a toujours pas réussi à le faire.
Ah bah oui, il a pas passé.
Il a toujours pas réussi à trouver la place.
Parce que Cherki, excuse-moi, mais hormis en Coupe de France un petit peu, notamment un match à Nantes ou quelque chose comme ça, mais en équipe de France Espoir, tu joues contre qui en équipe de France Espoir? Chaque fois qu'il a été titulaire, à Lyon, je veux dire, il s'en sortait pas, il était partout, il était nulle part, il a été des fois un peu 10 ou truc, c'est...
Il faut voir dans quelle équipe t'évolues et...
Ouais, c'était peut-être pas des grosses équipes
peut-être
dominantes,
que si tu mets au PSG,
mais quelque part...
Comment rendre constant Cherki, Thierry Henry, un extrait aujourd'hui de la conférence de presse, alors je sais pas, management, on peut l'appeler, l'intituler le bâton et la carotte. Le bâton et la carotte. Allez, on va commencer par la carotte.
Bâton rouge. Tu connais bâton rouge?
Je ne pense pas dans l'histoire que j'ai vu un joueur qui savait dribbler comme lui à la vitesse où il dribble pied droit, pied gauche. J'ai vu des joueurs bien dribblés du droit, bien dribblés du gauche, mais les deux, dans le football moderne, il faut être constant. Et on parle justement de ses débuts, je me rappelle de ses débuts. Début tonitruant. Et pour finir, à l'heure actuelle, il ne commence pas à Lyon. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire.
Voilà. Ouais. C'était.
Il a bien résumé.
C'était Thierry Henry. Et bon, on y croit donc à Cherki.
Oui. Mais on peut. On verra.
Oui, d'accord. Merci beaucoup.
Mais il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas enterrer le talent.
La Ligue 1 Express s'est passée ce week-end la 26e journée de Ligue 1. J'ai quelques questions à poser avec quelques faits d'actualité et commentaires avisés de nos chroniqueurs de l'équipe du soir. Puis on jouera dans quelques jours le thème du quiz. C'est pas dans mon contrat. A tout de suite. La 26e journée de Ligue 1 s'est donc tenue ce week-end. Un petit coup d'œil sur tous les clubs que vous aimez. Et la Ligue 1 Express, c'est parti. Comment réussir sa fin de saison, sa fin de championnat? Le conseil d'Olivier Létang, président du LOSC. L'état d'esprit, la mentalité, c'est quelque chose qui se cultive dans un club. Ce qui fera la différence sur cette fin de saison, c'est l'attitude. Par exemple, dès jeudi dernier, après le match partout contre Sturmgrass, on a dit dans le vestiaire qu'on ne voulait pas entendre parler de fatigue. Olivier Létang nous donne-t-il la clé pour réussir sa fin de saison? L'attitude et tout ça. Hervé, c'est une recette qui vous a intéressé.
Oui, moi, c'est une recette intéressante, oui, parce que souvent, on se trouve des excuses quand vous perdez. Et dès que vous commencez à vous trouver des excuses, ça va être un peu le début de la fin. Là, ce qu'il faut, c'est remobiliser tout le monde. Il a quand même été dans des gros clubs, notamment, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il s'est inspiré des grands joueurs qu'il a pu connaître. Quand vous avez des Ibra, des gens comme ça, dans un vestiaire, vous comprenez qu'il y a des choses à faire. Et notamment, c'est d'arriver à remobiliser tout le monde. Comment ? Effectivement, ne jamais chercher d'excuses, ça, je trouve ça plutôt intéressant.
L'OM qui s'incline à Rennes 2-0, l'OM ça coince. Gasset, l'OM, c'est deux défaites d'affilée, l'une à Villarreal, l'autre à Rennes. Est-ce une semaine qui change tout ? Benjamin, vous voulez parler de la situation de l'OM ? Ça change tout, là ? Ça les...
Non, ça change pas tout. J'ai senti un peu émoussé. Ils ont une semaine assez compliquée.
Effectivement, émoussé.
À Villarreal, mais ça change pas tout. On ne peut pas oublier ce qu'a fait Jean-Louis Gasset sur les premiers matchs qu'il a eu à disputer sur le banc de l'Olympique de Marseille. Il avait relancé ce collectif. Il a justement donné une certaine attitude à ce groupe de l'Olympique de Marseille qui baissait plutôt la tête les semaines précédant son arrivée. Donc non, on peut pas tout balayer d'un revers de main comme ça avec deux défaites. Celle d'hier contre Rennes, pour moi, ils étaient émoussés. Fin de semaine très compliquée. Et effectivement, faut une fin de série à tout. Mais le travail avait été plutôt bien fait avant cela, et il y aura certainement aussi les enjeux de fin de saison qui vont rebooster les troupes, parce que l'Europe est largement accessible encore, donc je pense qu'il ne faut pas tout balayer comme ça sur une ou deux défaites.
Ce qui peut tout changer, c'est le calendrier qui arrive, parce que oui. Là, Rennes, c'est le premier gros adversaire en Ligue 1, et là il va y avoir Paris, Lille, Lens. Benfica deux fois, Lens, Nice.
C'est pas plus mal parce que c'est des matchs à 6 points. Bah, s'ils les gagnent, tu vois, autant.
C'est pas plus mal, mais...
S'ils veulent remonter, de toute manière, ça va être contre les adversaires directs.
Mais Gassé, il a pas d'effectif.
Oui.
Il a dit lui-même, tu peux pas dire non.
Non, mais
S'ils
veulent arriver dans les 4 premières places, il a pas l'effectif des autres équipes qui sont devant.
Tu penses qu'il a un moins bon effectif que.
Pour moi, il y a moins de talent qu'à Monaco.
C'est pour ça qu'on.
Il y a
moins de talent qu'à Lens.
C'est pour ça que au mois de juin, il faut que M. Longoria il fasse des transferts.
Le nettoyage, comptez sur lui, vous inquiétez pas.
Arrête, ça,
c'est pas un conseil. Lens qui s'incline à Nice 3-1. Cette saison, donc, deux défaites contre Nice en championnat, deux défaites contre PSG en championnat et deux défaites contre Monaco en championnat. La suite, je vous laisse en compagnie de Francaise.
Depuis le début de saison, contre les équipes, de manière générale, du très haut de tableau, il nous en manque, ou techniquement, ou parfois dans la maturité, ou parfois dans le fait de faire les bons gestes au bon moment, les bons choix, il nous en manque. Ça explique, ça veut dire aussi tout ce qu'on doit encore améliorer, si on peut le faire. Il y a toujours des choses à améliorer, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on a aussi des plafonds de verre, hein, tout simplement.
Sur le plafond de verre, le RC Lens, vous êtes d'accord ou pas d'accord,
Moi,
Bernard ?
Je suis d'accord, je trouve que Francaise, il est tout à fait lucide sur le potentiel de son équipe. Pour oublier quand même la saison exceptionnelle qu'a réussi le RC Lens l'année dernière, on a l'impression qu'il était un peu au-dessus de leur réel niveau. Aujourd'hui, ils reviennent à leur niveau avec leurs moyens, en sachant aussi que l'effectif est quand même plus faible que l'année dernière, parce que tu perds quand même deux joueurs, Seko Fofana et Openda, et que dans le recrutement, quand tu parles notamment de qualité technique, tu pars pour jouer la Ligue des Champions, etc., etc., et avec des recrues, Fulgini, Thomasson, qui sont pas des joueurs de
Thomasson,
qui sont des très bons joueurs, mais qui sont pas des joueurs de niveau Ligue des Champions. Donc à un moment, tu te dis ça va sortir du banc et tu vas avoir les impact players, t'as des très bons joueurs de Ligue 1. Mais il a
100 fois raison. Une fois, j'ai dit sur le plateau, c'était pas méchant. Moi, j'adore les seniors et ce qu'ils ont fait, effectivement, qu'ils étaient en sur-régime. Mais à un moment, il y a une limite. C'est même un miracle qu'ils soient revenus dans la course après ce début de championnat un peu complètement catastrophique. Et effectivement, la Ligue des Champions qui a bouffé de l'énergie et tout. Mais à un moment, il le dit lui-même. Ici, on a dit, oh, il y a des cracks. Par à 2-3 joueurs, les autres joueurs, c'est des. Voilà, qui donnent tout et qui sont méritants. Mais à un moment, il va falloir
qu'en
qualité il y ait un ou deux joueurs qui arrivent à l'intersaison, sinon
sur un championnat tu te fais rattraper par la réalité.
Pierre Sage, coach de l'OL la saison prochaine, c'est David Priot, le directeur sportif de l'OL, qui déclare David Friot, le directeur sportif de l'OL, qui déclare sur le site de l'OL, le club soutient totalement son initiative de passer le BEPF, le diplôme pour être entraîneur, et d'ailleurs c'est dans la logique des choses. Hugo Guimet, une petite phrase là, c'est un indice pour
Bah, c'est
prolongation
c'est
mal, de
ça, ça, en fait, ça le conforte un petit peu quand même parce que il y a une espèce omerta, non, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ils se sont entendus pour ne pas parler de l'avenir de Pierre Sage avant la fin de saison. Et il est en train de remplir les objectifs parce que depuis qu'il a pris l'équipe, si on prend le classement depuis ce moment-là, l'OL est troisième derrière le PSG et Brest. Donc il est à plus de 2 points par match en Ligue 1. Donc c'est le rythme que veulent les dirigeants de l'OL. Mais ils veulent pas lui parler de prolongation avant que l'OL soit définitivement maintenu. Et puis en plus, il y a la Coupe de France avec cette demi-finale donc contre Valenciennes. Donc ils espèrent vraiment aller en finale. Mais dire on le soutient dans son inscription au BEPF alors que lui il s'inscrit au BEPF pour justement pouvoir coacher sans prendre d'amende la saison prochaine,
ça veut dire ce que ça veut dire.
On pense un peu à l'avenir.
Mmh, okay.
Donc c'est plutôt positif.
Et tant mieux. Enfin, je veux dire.
Évidemment, tant mieux parce qu'en fait, au club,
bien sûr.
Tout le monde, il a que des partisans et même les supporters d'ailleurs qui avaient l'habitude de détester tous les coachs qui passaient à Lyon adorent Pierre.
Il est très bien.
Donc ils s'ennuient.
Brest 1, Lille 1. Après la rencontre, Pierre Lesmélou a fait une confidence à Vincent Petitpèze, notre confrère de Prime Vidéo. Pierre Lesmélou ne regarde aucun match de Ligue 1, ou si peu que pas. Écoutez cette séquence.
Une dernière question. Maintenant, vous jouez à 13h plus dans le multiplex. Vous allez le regarder, le multiplex. Est-ce qu'on regarde, par exemple, les performances de Monaco?
Oh là non, alors là, vous posez la question à mauvaise personne. Moi, je vais rentrer, je vais boire un coup et puis peut-être regarder autre chose. Mais je suis pas trop football, moi. C'est bon, là, j'en fais assez. Je suis fatigué pour la journée, là. C'est bon.
Merci beaucoup, Pierre Lesmélou.
Merci, messieurs. Bonne journée.
C'est donc un métier de regarder du football à la télé, ouais. Hein, c'est sorti comme ça, naturellement. Ouais, c'est plutôt sympa.
C'est pas le seul, je pense que c'est un peu dans la nouvelle génération. Tout le monde n'est pas comme Thierry. Henry,
lui, c'est pas une nouvelle génération. Lui, c'est un gars qui a 30 ans déjà. Ouais.
Oui, mais quand même, mais il me semble, enfin, moi j'ai discuté avec quelques entraîneurs qui me disaient je suis effaré parce que le lendemain de Ligue des Champions, ouais. Je suis à l'entraînement. Je discute, alors vous avez vu ça, y en a beaucoup qui n'ont pas vu. J'avais vu l'interview de. C'était Sou et Koto, alors lui, voilà. C'était un peu la même chose que.
Le grand jeu quand on suivait Lyon au début des années 2000.
C'est quoi le prochain match?
C'est Sidney Govou qui était en conf de presse, on lui dit et l'adversaire direct, tu le connais? Parce que lui ne suivait pas un match. Depuis, il est devenu fan absolu de foot. Hein. Ouais. Bon, il est commentateur. Mais à l'époque, il ne suivait jamais. Et c'était le grand jeu. Dès qu'on savait qu'il était en course de presse Ligue des Champions, on rigolait. Et lui-même, on rigolait.
D'ailleurs. Mais c'est marrant parce que vous prenez ça à la rigolade. Mais parfois, quand on a eu ces débats-là, en me disant, mais franchement, il devrait s'intéresser quand même. Voilà. Non.
Non, mais c'est un plus. Je pense que c'est un plus quand vous intéressez à votre sport. Parce que déjà, regarder des matchs, c'est voir des adversaires. C'est les analyser. Aujourd'hui, de toute façon, dans les plus grands clubs européens, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des cassettes, des CD de tout, avec des analyses sur votre joueur adverse, votre adversaire, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. C'est la moindre des choses que de travailler. Et
sur une clé USB.
Mais c'est pas nouveau.
Sur une clé USB, il n'y a plus de cassettes, il n'y a plus tout ça. Non, ça n'existe pas.
Pas nouveau, ça fait une quinzaine d'années que c'est comme ça maintenant.
Voilà.
Je me rappelle quand Laurent Blanc est arrivé à Bordeaux, il était effaré le lendemain.
Voilà, c'est ça.
Avec des champions. Et Lolo White leur avait dit, parce que c'était un génie. Un visionnaire, il avait dit, mais vous avez tort, parce que dans un an ou deux, on va les jouer.
La ligne de l'équipe de demain, Tanguy, c'est sur l'arbitrage. Il faut tout revoir. On a notamment eu tout à l'heure l'interview du patron de l'arbitrage français, Anthony Gauthier. C'est disponible sur le site L'Équipe. Le quiz à présent.
Ah.
Qui a les jokers?
Ah.
Qui a les
pas que ce soit moi.
Joker. C'est Didier, on dit c'est lui qui a les jokers.
Pourquoi il a les jokers?
Parce que
c'est le président.
Moi, j'ai gagné tous mes duels, j'ai qu'un point.
Mais j'ai écouté, c'est comme ça.
Mais comment c'est possible?
Le retour de Comboiré à Nantes.
C'est truqué.
Le retour de Comboiré à Nantes, ces entraîneurs qui ont entraîné deux fois le même club. Je vous laisse un peu. Ces entraîneurs qui ont entraîné deux fois le même club, ouais.
Mais où? Français ou pas?
Français ou pas?
En France, à l'étranger?
En France et à l'étranger.
D'accord,
voilà. Comme Comboiré, j'ai joué au FC Nantes.
Der Zakarian,
c'est une mauvaise réponse. Comme Comboiré...
Je reviens.
Non, c'est Didier qui dit. Comme Comboiré, j'ai joué au FC Nantes en tant que joueur. Et comme Comboiré, j'ai entraîné deux fois le FC Nantes.
Amis.
Loïc Amis, Lolo Amis.
C'est une fois.
Comme Comboiré, j'ai connu deux finales de Coupe de France sur le banc de Canaries. Coco Sedo, c'est 2 points pour Bernard Lyons.
Ouais, c'est une fois.
Attention, ces entraîneurs qui ont entraîné deux fois le même club. Sur son CV, j'ai coaché en Italie, en Angleterre, Ancelotti. En France, en Espagne, en Allemagne, en Carlo Ancelotti. Bonne réponse d'Hervé Penaud. Deux fois le Real.
Ouais.
Tiens, autre coach à découvrir, je suis revenu en Ligue 1 à l'été 2022.
Je suis revenu en Ligue 1.
Ouais, à l'été 2022.
Laurent Blanc.
C'est pas Lolo White. Ce fut un échec retentissant.
Jardim.
Non. C'est pas Jardim. J'avais pourtant régalé à Nice entre 2016 et 2019.
Ranieri.
Favre. Deux points pour Benjamin Quarez. Ah oui, hein.
La montagne.
Je misais sur vous. Alors, ces entraîneurs qui ont entraîné deux fois le même club, je suis en poste actuellement.
Julien Stéphan.
Julien Stéphan, 4 points. Pour...
C'est clair.
Mouillé.
Bon, Benjamin, on va le calmer un peu. Un peu à la cave.
Benjamin, ouais. Vous prenez une petite RTT hein. Voilà, on se retrouve après. Je suis français pour 4 points.
Oui, monsieur.
Je suis français pour 4 points.
Oui.
Zidane, je suis français, Bernard, on sait français, c'est 4 points pour Bernard.
Non, mais... C'est truqué. Et où c'est truqué?
Il y en a beaucoup des Français.
Non, vous n'avez pas le droit, vous, c'est truqué? Non, c'est pas le droit de contrat, mon petit.
Okay. Ah,
non. Entre mon licenciement et mon retour, il s'est écoulé 106 jours. Jardim, merde. Bernard Lyon, ça a dégainé le premier. 4 points. Bernard, vous n'avez jamais été aussi proche d'une victoire.
Vous avez bien me bidonné un truc.
Attention, j'ai entraîné deux fois le même club. Je suis dans l'actualité.
Der Zakarian,
c'est pas lui.
Gourvenec.
Très belle réponse. Guingamp, 4 points. Il n'a pas.
Il est pas mal, Hugo, quand même.
Ouais. Bah, j'ai gagné.
Hugo, c'est pas son joueur. Tiens, j'ai entraîné deux fois le même club et j'ai actuellement 78 ans.
René Girard.
Non, bah, c'est pas René.
René Girard.
Bonjour à René. Hein. Je suis allemand.
Quand même.
Je suis allemand. Jupp Heynckes. Voilà, Jupp Heynckes, c'est 3 points supplémentaires.
Il va aller
pour la remontada.
Alors peut-être.
Deux fois le Bayern.
Je suis allé lâcher.
Non, mais ne perds pas de temps.
J'ai eu trois mandats dans le même club. Trois aventures, trois épisodes dans le même club. Ranieri, c'est une mauvaise réponse, Bernard. C'est
ta chance, Didier, là.
Lippi.
Marcello Lippi, ce n'est pas lui. Le premier a duré 4 ans. Le deuxième a duré 10 ans. Le troisième a duré 11 ans. 4. 10, 11. Attention pour 2 points, allez, c'était à Lorient.
Gourcuff. Facile. Allez. Gourcuff.
Je crois que c'est Hervé.
Didoun.
Non, bah oui, c'est bon.
Didoun.
Non.
L'arbitre VAR, on dit Didoun.
Bien sûr.
Attention, pour 4 points, c'est le dernier.
Ah, peut-être.
Alors, attention.
J'ai entraîné deux fois Chelsea.
Mourinho,
4 points pour Benjamin Quarez.
Il y a égalité.
Il y a 10-10.
On va en faire un autre.
On a donné Hervé.
Il faut en donner un autre.
J'ai 10-10.
Non.
Il y a égalité.
Il faut donner un autre. Un dernier.
Puzzle. Bernard, vous avez gagné, mais égalité. Une réaction, Bernard ?
Partageur.
Comment ?
Je suis partageur.
Il a les boules, là.
Ça fait partie.
Il a les boules. On vous embrasse.
Tu n'as pas gagné.
À demain.
Ciao. Eu dará, eu dará.